Gameblogueuse, Gameblogueur, podcast 191, podcast de bilan de la saison 2010-2011. Mesdames et messieurs, c'est fini les podcasts pour cette saison. Mais pour autant, eh bien, nous allons bien repasser toute l'actualité majeure avec des invités exceptionnels, des invités VIP comme on dit, avec sur ma gauche, AHL, Alain, ça va Alain?
Super. Ah, dans le micro, ça va. Voilà, mieux. Dans le micro, ça va mieux.
Ah, t'es habitué au micro que tu mets dessus dans les versus.
Et oui, je peux pas taper dessus là.
Mais non,
je suis embêté.
Tu te donnes des baffes.
Ouais.
Comment ça se passe?
Ah, tant pis, je tape plus. Hein. Mais c'est plus la légende. Hein.
Eh ben non, ce ne sera plus le Alain légendaire des versus. Vous le savez, de toute manière, les versus ne reviendront pas en troisième saison.
Oh là là.
Il y aura d'autres surprises. Et à ma droite, eh bien, il y a l'autre larron des versus, justement, Cyril Drevet. Ça va, Cyril?
Eh ben, ça va super. Hein. Très content de me retrouver là avec tout le monde et avec les game bloggers surtout.
Exactement, pour cette dernière de la, je sais pas combienième saison des podcasts. On a oublié de compter d'ailleurs. C'est la quatrième, déjà quatrième saison. Donc ce sera la cinquième saison.
Comme le temps passe vite.
En 2011-2012, ce sera énorme. Et justement, l'un des acteurs principaux des premières saisons des podcasts, Caféine,
oui.
Est avec nous. Bonjour. À l'extrême droite.
Ça va, ouais.
Bah bon,
ouais.
C'est
dans
bien ça.
Cette saison électorale.
Ils t'ont reconnu.
Comment ça va, Marine?
Non, je déconne, je n'ai pas de problème à l'œil. Ça va?
Bah écoute, oui, j'ai très très chaud pour l'instant.
Mais tu sais quoi, c'est juste le début. Hein.
Ouais, je sais.
Parce que là, franchement, on va se liquéfier. Si vous avez la vidéo, vous allez kiffer. Parce que je pense qu'on va faire du t-shirt mouillé dans pas longtemps. Hein.
Alors, messieurs, vous n'allez pas tout seul hein, pour l'instant. Il y a Raon, bien sûr, Azoujoual aux manettes. Mais nous avons fait deux équipes. Eh oui, constitué deux équipes pour ce dernier podcast. La première équipe, vous l'avez devant les yeux ou sous les oreilles.
L'équipe pro.
L'équipe première.
Ah, puis, la division 1.
Toujours modeste.
Et puis en Ligue 2 de Gameblog, nous retrouverons en deuxième mi-temps eh bien, Tiger Suplex, bien sûr, qui viendra aussi nous parler des choses qui l'ont marqué pendant cette saison 2010-2011, mais aussi Trazom et aussi Julo. Voilà, histoire que tout le monde puisse donner son avis. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a des moments où il y aura des passages de relais pendant ce podcast qui va commencer, vous allez voir, on va l'articuler en trois temps. Le premier temps, c'est nos jeux préférés de l'année, notre top 3, les jeux qui nous ont marqués. Alors quand je dis année, il faut bien comprendre la saison hein, donc qui commence à partir du 1er juillet 2010, qui était à peu près la fin des derniers podcasts, jusqu'à aujourd'hui, fin du mois de juin, début du mois de juillet 2011. Ensuite, on parlera de manière chronologique des temps forts de cette saison, avec entre autres l'arrivée des motion controllers de la Xbox 360 et de la PlayStation 3, l'arrivée aussi la première édition du Paris Games Week, l'annonce de la NGP à Tokyo au mois de janvier dernier, le PSN qui a été totalement piraté, ou encore le lancement français de la Nintendo 3DS. Et puis en fin de podcast, dans allez d'ici quoi une petite heure environ, eh bien nous parlerons des grandes tendances qu'on a vu émerger, nos coups de cœur, nos coups de gueule, des choses qui nous ont marqué. Mais justement, on va commencer tout de suite et on va commencer avec toi Alain, par ton top 3, les trois jeux et dans l'ordre qui t'ont marqué particulièrement, et on va commencer par le troisième, donc celui qui t'a le moins plu parmi ceux qui t'ont le plus plu.
Oh là, bah c'est Crysis 2. Ouais. Moi j'ai toujours aimé la série des Crysis et Far Cry avant, et je trouve c'est vraiment bien, ça a des potes. Je sais pas, j'ai vu pas mal de critiques, il y a des gens qui n'ont pas aimé, moi j'ai vraiment apprécié, j'aime bien ce côté de se transformer, d'être transparent, d'arriver, hop, tu frappes, hop, tu repars, tu redeviens transparent.
Et il est absolument technologiquement, en tout cas.
Ah ouais, ça dépote quoi, ça dépote, vraiment je me suis bien emballé. Et puis en second, bah, c'est Elle est Noire, parce que je trouve que ça change, ça m'a changé de mes FPS bourrins. Et puis j'adore vraiment l'ambiance Elle est Noire, Elroy, t'es ouais. Dans un bouquin d'Elroy, ces années-là...
Ça, c'est
Claude-François. Allez. Oui, c'est pas comme ça, je le voyais. Il est amusant, le garçon.
Sur ses ailes et Claude-François, en plus.
Non, alors, quand j'ai plus Cyril pour raconter des conneries, c'est toi qui prends le relais. Alors, je m'en sortirai jamais, là. Je m'en sortirai jamais.
Et ton number one?
Et mon number one, c'est Dead Space 2.
Ah,
moi, j'adore. J'adorais le premier et j'ai encore plus aimé le second. Et je dois dire que c'est aussi ma plus grosse déception de l'année.
Alors,
à la fois,
ta déception,
oui, oui, parce que la déception, c'est qu'il a pas vraiment marché du tout, et que donc il y aura peut-être pas un 3 dans la même lignée. Et moi, ça met vraiment les boules. Est-ce que c'est trop gamer? J'ai pas compris. J'étais sûr que le premier il marche pas trop.
Parce
je pouvais comprendre, c'était nouveau. Voilà. Alors que le deuxième, c'était vraiment attendu. Il y a eu
un gros buzz autour.
Oui, la presse était unanime, quoi.
On vous invite d'ailleurs à retrouver. Je crois que c'est dans les blogs. psychologues, les mamans qu'on a fait, à qui on a montré le jeu chez Electronic Arts, et qui étaient horrifiées. Et c'est des crash tests assez hallucinants.
Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu extraordinaire. C'est vraiment mon jeu de la saison. Et bon, c'est une déception que ça n'ait pas marché, mais tant pis, je resterai seul à l'aimer.
Donc pour Alain, du survival horror, de l'aventure et du FPS. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que tu seras le seul à citer dans tous les tops un FPS, en tout cas dans les préférés.
Ouais,
vous verrez que du côté de Gameblog, on a essayé de... Enfin, visiblement, en tout cas, les gameblogueurs de la rédaction préfèrent les expériences peut-être plus originales.
Oui, c'est des intellectuels, il y a des intellectuels. Moi, je suis le côté bourrin de Gameblog.
Cela dit, Julien, moi, j'en ai pas mis dans mon top, mais c'est vrai que, comme Alain, je suis un fan de FPS, et c'est vrai que, bon, Dead Space 2, j'aurais pu le nommer, Killzone 3, il y a eu quand même... Des gros trucs.
Ça fait partie de mes coups de cœur aussi.
C'est vrai que moi, dans mon top, j'ai essayé de varier un petit peu, mais j'aurais pu mettre, il y a quelques FPS qui sont sortis cette année qui valaient vraiment le coup et qui déboîtaient.
Et ben, on verra ça dans quelques instants. Mais justement, à chacun, on a aussi demandé sa déception de la saison. Et toi, ta déception, c'est un autre FPS qui s'est fait énormément attendre. Voilà. Quoi s'agit-il alors?
Et ton seul post de l'année sur ton blog, d'ailleurs.
Ouais. Je me repose depuis parce que ça m'a beaucoup fatigué. Oui, je me suis
Il faut savoir que c'est moi qui lui ai fait la moitié. Je lui ai fait passer, c'est un travail d'équipe.
Il faut se rappeler qu'il est à la retraite, donc il a que ça à foutre quand même.
C'est longuement pensé avant.
Donc, de quel jeu s'agit-il?
Je me suis pris les boules comme un ouf en jouant à ce jeu débile de Duke Nukem, machin. Voilà, bon, je vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que j'en ai causé déjà pas mal.
Moi, je suis surpris parce qu'on m'a dit que c'était le summum de la technologie actuelle.
Qui a dit ça?
Quelqu'un sur chez BFM TV.
C'est mal foutu, c'est moche, puis c'est con, quoi. C'est pas un FPS, quoi, s'il se passe rien. Enfin, je peux pas m'emballer là-dessus, mais vraiment, c'est des boules.
Tu veux un prix de groupe? Je crois que c'est un avis que tu partages largement et on va anticiper, mais c'est ta déception de l'année aussi.
C'est ma déception de l'année aussi. Et moi, je l'ai écrit en long, en large. Je l'ai pas complètement détruit parce que quelque part 14 ans d'attente, tu sais, c'est un peu comme une ex, t'as beau la plaquer quelque part, ça fait du mal. Et
ça dépend où tu la plaques, sur les doigts ça va, mais enfin.
Sur les doigts,
on va oublier cette
plaquage de rugby, c'est une vanne de merde.
C'est le dernier podcast de la saison. Il a du mal.
Non,
Anne Romanoff sort de ce corps.
J'ai dit qu'il y avait des intellos à Gameblog. Peut-être trompé un peu.
Pas celui-là. Pour des moments, c'est l'ouverture.
Mais vous le défoncez parce que vous étiez trop attaché au premier.
Ah, mais pas du tout. Parce que la preuve, moi je le défonce pas complètement. Il y a un truc extraordinaire, mais que les gens ont peut-être pas vu parce qu'il y en a plein. Ils ont de la chance, ils n'y ont pas joué. C'est qu'en fait, toutes les mauvaises vannes sont dans la première partie du jeu qui a absolument aucun rythme.
C'est un bon point.
Non, parce que du coup, la première moitié, c'est une horreur. Et en fait, ils se sont rappelés qu'ils avaient un jeu à faire dans la deuxième moitié du jeu.
Donc ils progressent.
Ouais, c'est pour ça que finalement, quand j'ai eu fini le jeu, je me suis dit, j'en ai chié. Il y a 4 heures, j'avais envie de le mettre à mort, mais dans le sang. Et là, je me dis, j'ai envie de sauver 2-3 trucs. C'est pour ça qu'il a 2 et pas 1 ou pas 0 d'ailleurs.
Mais
ça aurait pu être pire.
Question naïve, quand on reproche beaucoup à l'humour de Duke Nukem d'être trop graveleux ou ce genre de choses, pour les gens qui sont extérieurs à Duke Nukem, on a l'impression que justement, l'humour graveleux, sexuel et machin, c'est Duke Nukem.
Non, mais elle était timée dans le premier. Elle était timée, elle tombait plutôt à pic. Elle était bien foutue dans l'action et surtout le gameplay la soutenait. Et venait les deux se renforcer en fait. Parce qu'on se baladait, on trouvait il y avait des endroits où on arrivait dans des strip clubs. Le strip club, t'étais pas obligé d'y aller quelque part. Là, le jeu il commence et salut, fellation par de nana avec mais 4 vannes de suite, mais lourdes comme des parpaings.
Comment tu spoil ?
C'est l'install du jeu.
Mais c'est les vannes qui sont pourries parce que les fellations.
Et c'est pas que vous avez grandi.
Il faut que t'arrêtes les vannes aussi.
Mais c'est pas aussi que vous avez grandi un peu ?
Franchement, c'est ce que j'aurais pu me dire, mais je pense que juste le jeu est plus du tout dans son époque quelque part. Alors peut-être. Mais je crois que c'est pas juste nous qui avons grandi, je crois que c'est l'époque qui a changé. Les gens aiment les vannes à la limite de Sam Fisher quand il fait les interrogatoires un peu musclés ou ce genre de trucs. Duke Nukem, en plus, c'est des vannes pour les vannes, et surtout, il y a plein de références. Il y a des gens qui ont dit oui, mais il y a plein de références. C'est des références pour des références. Elles sont pas là pour être drôles, quoi. Donc, moi j'ai trouvé ça très rapide.
Justement, puisque tu as le micro, CAF, on va passer avec toi et sur ton top 3. Et comme pour Alain, on va commencer à rebrousse-poil. Donc, attention, ton troisième jeu préféré de la saison
Witcher 2. C'est original. pour un joueur PC.
Alors qu'est-ce que Witcher pour ceux qui ne connaissent pas bien?
C'est un RPG, parce que c'est un RPG adulte. Alors là pour le coup ils font pas dans la légèreté et les vannes, hein, mm-hmm. mais c'est extrêmement bien écrit, l'univers est super prenant, le héros est méga charismatique, il s'en prend plein la gueule. Et techniquement c'est peut-être un des plus beaux jeux PC de cette année, avec, avec dans un autre genre, hein, je te l'accorde à HL. Mais et il y a
avec
un
Crysis,
truc,
c'est ça que tu veux dire?
Ouais, ouais.
Crysis 2.
Mais en fait, il y a des paysages extérieurs qui sont magnifiques. On est vraiment, voilà, on a ce sentiment de d'heroic fantasy. On a l'épée sur le dos et on y va et on fait. C'est vraiment super prenant.
Moi, j'ai mature.
Ouais, mais alors en plus, moi, j'ai commencé sans avoir fini le 1. Parce que je voulais absolument voir le 2, tout le monde me gonflait en me disant le 2 il est magnifique, il faut lui jouer et tout. Mais du coup là j'ai arrêté après en me disant il faut vraiment que je finisse le 1. Il y a un reproche et c'est pour ça qu'il est en 3, c'est que moi je suis fait partie des gens qui ne sont pas complètement fans du système de combat qui est utilisé.
J'ai l'impression que c'est très PC ça. Parce que Tiger l'avait découvert ce week-end, c'est pas un gros joueur sur PC.
On en parlera tout à l'heure d'ailleurs.
Ouais.
Et lui par exemple ça l'a pas gêné.
Non mais je pense que c'est vraiment, c'est pas gênant, c'est-à-dire que c'est pas le truc qui va t'empêcher de faire le jeu, mais le joueur PC qui est habitué à vraiment gérer toutes les actions de son perso, le fait que ça soit à base de clics. Avec un timing, un système de timing. Bon voilà, ça peut décevoir certaines personnes. Maintenant faut pas s'empêcher de faire le jeu à cause de ça, parce qu'il est vraiment fantastique.
Deuxième place de ton classement, un titre qui est sorti au cœur de l'été
dernier.
Ouais, mais Starcraft 2 obligé. Starcraft
Wings
2
of Liberty.
Voilà, donc on attend le prochain avec les ergs. Mais Wings of Liberty, ça a pris tout le monde par surprise, parce que tout le monde attendait Starcraft 2. Bon alors super, campagne solo, on va y jouer 3 secondes, puis après on va jouer en multi, ça va être génial. On va se faire rouler dessus, enfin en tout cas moi. Je prends tellement cher
mais, aussi, visible, hein.
Ah ouais non mais je suis en ligue papier mâché, c'est une horreur hein.
On est deux en ligue papier mâché, c'est lui et moi.
C'est pas possible quoi, je me fais défoncer. Bref, et pourtant j'adore ça. Mais en revanche la campagne solo, ça a été la vraie surprise, parce qu'en fait t'as des images de synthèse de folie, une histoire super bien faite. C'est même pas linéaire dans le sens où il y a quelques embranchements et tu peux réussir à faire des trucs. Franchement, ça a été une grosse surprise.
12 ans d'attente, mais contrairement à Duke Nukem, ah, voilà. Ça c'est de la vraie.
Bah, en fait, d'un côté, t'as Blizzard et puis bah, t'as Gearbox. Quoi.
Et est-ce que ça t'a détourné de World of Warcraft un peu?
Carrément. Ah, en fait, il y a deux jeux. En fait, entre les MOBA et StarCraft 2, j'ai complètement arrêté les MMO. Et pourtant, Rift est excellent et j'aurais pu le mettre sur la liste, parce que Rift est une des excellentes surprises sur PC de cette année. Ils sont 1 million de joueurs signés, machin, abonnés. Donc voilà. Y a eu,
comment ça signé? Je veux dire, les mecs, ils peuvent pas se barrer, quoi. C'est pas possible.
Ils ont payé, c'est mort. Tu sais que c'est un bon jeu quand dans les forecasts, dans le rapport financier de Blizzard, t'as les mecs qui disent voilà, on a perdu 600 000 joueurs, etc. Ah,
et
bon,
comme par hasard, Rift a fait plus de 600 000.
Non, c'est pas ça. C'est les mecs qui font genre, mais alors ça veut dire que votre jeu est moins bien et tout. Ah non, on sait où ils sont, hein. Point. Donc ils sont partis, voilà, chez Rift. Il y a une vraie baston qualitative entre les deux jeux. Moi je trouve ça très
fort.
Ce qui est fort
de la part des développeurs de Rift, parce que
ils ont fait Blizzard, un boulot extraordinaire.
Même si pour l'instant c'est en gros 12 millions d'abonnés pour WoW et 1 million pour Rift.
Mais ouais, mais ils ont fait mieux que n'importe qui depuis 10 ans, à part WoW. Donc c'est génial. Et si j'avais encore joué au MMO, j'aurais mis dans le top 3.
And now, ladies and gentlemen. Number one.
Il t'en fais pas 3 tonnes là.
Si,
Assassin's Creed Brotherhood.
Quelle surprise, c'est même pas un jeu vraiment PC.
Et tu sais pourquoi? Parce qu'en plus moi je viens de le finir, parce qu'il est sorti cet hiver sur PC.
Ouais.
J'ai attendu la sortie, enfin il est sorti il y a pas longtemps sur Steam en fait pour nous sur PC.
Ouais.
Et j'adore ce jeu quoi, j'adore
la
série.
Et la fin?
La fin, j'ai envie de dire bande de putes. tu me regardes, développeur de Assassin's Creed, je vais te trouver, je vais t'interviewer et je vais te faire mal.
Sortir révélation.
Pourquoi tu aimes temps.
J'adore le gameplay, mais j'ai envie de grimper partout dans le jeu, c'est tellement bien réalisé.
Pourtant, beaucoup
choper.
De personnes disent oui, mais c'est simplifié.
Ah, mais carrément,
moi, je déteste par exemple.
Et moi j'adore.
T'es plus acteur que joueur.
Ça me dérange pas, parce qu'en fait, il y a vraiment justement, ils utilisent cette facilité pour mettre dedans du gameplay où il faut vraiment pas se rater. Il y a des endroits où tu sais pas si ça va vraiment passer. Et puis derrière, ça, c'est une des facettes du gameplay. J'adore l'histoire, j'adore les quêtes secondaires, j'adore le héros que je trouve méga classe, les héros même. J'adore vraiment l'ambiance. Et puis en plus, ils avaient une petite blonde que j'aime bien.
Ah oui, effectivement, elle est très bien. Mais me regarde pas comme ça.
Parce que tu vois de qui je veux parler.
Oui, tout à fait, oui. Et t'as joué au multi?
Oui, alors le multi, c'est la grosse frustration de ce jeu en fait.
Ah bon?
Parce qu'il est extraordinaire et il n'y a personne pour y jouer. Parce que monsieur Ubisoft, ton système.
Sur PC alors en fait.
Bien sûr, sur PC, ouais. Le fait de le sortir si tard en fait, je pense qu'ils n'en ont pas vendu des tonnes. D'ailleurs, je le vois, tu vois, sur Steam, tu vois le nombre de potes, de friends qui ont acheté le jeu. Il n'a pas vraiment décollé dans les ventes, donc, même de mes potes, donc j'attends les promos pour que
mes potes
arrivent.
Il y a Fumble qui s'y met là.
Mais franchement, il est, le multi est hyper bien. Et bah, ce qui est chiant, c'est que quand tu lances une partie, t'es, des fois, tu rentres à 5 sur 6, tu dis ouais, la partie va démarrer. Et hop, ça reset, genre, et ça, tout le monde se barre. Et en fait, tu joues jamais.
D'accord.
Donc, moi, ça m'est arrivé de perdre une heure pour essayer de faire une partie en multi, quoi.
C'était en tout cas ton top 3 de la saison 2010-2011. Et maintenant, passons au top de Cyril Drevet. Alors, Cyril Drevet, un top très différent des premiers qu'on vient d'entendre, en tout cas, avec troisième position.
Et ben, Pilot Wings.
Un jeu Nintendo.
Bah oui, pourquoi
pas.
Mais arrêtez de me faire passer pour un anti-Nintendo ou quoi que ce soit, au contraire.
Oh, tu t'es très bien débrouillé tout seul.
Il a fait gros du boulot. Hein.
Alors que t'es un Mario fan.
C'est pas ton fanboy de base. C'est au contraire, si je suis si dur avec Nintendo aujourd'hui, c'est justement parce que je suis à la base un fan de Nintendo ultime. Et dans mes, vraiment, dans les jeux qui ont marqué ma carrière de joueur, bah, Pilot Wings en est un. Mm-hmm. Et je suis très content de le retrouver sur 3DS.
Cette version 3DS t'a particulièrement plu?
Bah, m'a plu, et en plus je dois dire que bah, bizarrement j'aime plutôt pas mal la 3DS, donc ça participe à ça, parce que les premiers jeux de la 3DS, moi, me plaisent, et me plaisent beaucoup plus que les jeux qu'il y avait sur DS auparavant, qui étaient très casual, très machin et tout ça. Alors je note
une note de lancement plus gamer que ce que
bah, je trouve, et du coup la preuve c'est que bah, du coup la console
se vend pas,
se vend pas ou moins bien tout du moins. Mais moi ça me va, quoi.
Tu l'as pas trouvé un tout petit peu trop court? Enfin, une fois que t'as fini, bon, tu recommences.
Ouais, je suis d'accord. Si, si.
Mais c'est ton top 3.
Non, je suis d'accord, mais ça a été un tel bonheur de le retrouver. Et puis sur portable, voilà.
Rafraîchissant,
voilà.
Ok. Un autre titre qui est effectivement en deuxième position, je crois unanimement, même si tout le monde ne l'a pas mis dans son classement, est vraiment apprécié par les game blogueurs en général, c'est
Portal 2. Ah ouais. Alors là, je fais pas dans l'originalité, mais,
Oui.
En fait, j'avais quasiment pas joué au 1.
Arrêtez de piquer mes jeux,
bordel. il m'était passé un peu le 1, en fait, je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai à la maison, je l'avais eu et tout, mais j'avais pas, tu vois.
Mmh.
Et là,
pourtant, il demande pas beaucoup de temps. C'est l'une des choses qu'on peut lui reprocher, le premier Portal.
Mais j'y avais quasiment pas joué, donc je m'étais pas rendu compte. Et là, sur le 2, je me suis rendu compte à quel point ce jeu est vraiment assez en marge de ce qui se fait aujourd'hui.
Mais du coup, t'as pas fini le premier avant de t'attaquer le 2?
Non.
Ah, c'est dommage.
Bah oui,
tu
oui,
mais
je perds un petit peu, mais j'y reviendrai là. Je vais profiter
de
l'été, justement. Mmh. C'est un de mes trucs que j'ai dans le placard.
Puis vu le temps qui est en train de se préserver, je pense qu'on peut rester bien chez soi, parce que sinon on peut être desséché.
Voilà, c'est ça. Et non, vraie découverte du coup. Et c'est vrai que ce jeu, c'est là aussi très rafraîchissant, parce que ça ressemble à rien.
Puis c'est un jeu qui fait rire. C'est un jeu
d'autre.
De
voilà,
ça ressemble à rien d'autre.
Oui, ça, rien d'autre. C'est ce principe de mélanger un peu FPS et puzzle game et tout ça, c'est juste génial. Et puis tu te prends au jeu, quoi.
Et puis c'est un jeu qui te prend pas pour un con, et mine de rien,
ouais,
il y en a pas tant que ça.
Et l'univers est incroyable.
En première position de Cyril Drevet, attention mesdames et messieurs, ce n'est pas un jeu d'aventure, ce n'est pas un jeu d'action, ce n'est pas un jeu de baston, c'est... Bah si, justement.
Un jeu de baston. Et ah, oui, ouais. C'est Marvel versus Capcom 3. Mais
surprise quand même.
Bah oui, surprise, mais en fait c'est plus... j'ai mis celui-là parce qu'il fallait que je tranche, mais j'aurais pu mettre Super Street sur 3DS aussi. Mmh. En fait, ce que je veux valider par ça, c'est le grand retour de l'univers Street Fighter qui avait un peu disparu, et depuis le retour de Street 4 sur PS3
ça fait 2 ans là, quand même.
Oui, ça fait 2 ans, mais
c'est bien, hein,
mais ça perdure,
mais voilà, il a marqué son grand retour. C'est un jeu qui, moi, dans ma carrière de joueur,
Tu parles duquel? De Marvel versus
Capcom
3?
De Street en général.
Street, ok.
Et Marvel versus Capcom 3 s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que il est magnifique, les graphismes. Je l'ai découvert en premier sur Xbox 360 à une époque où la Xbox 360 était un peu là, elle fait un grand retour, mais elle était un peu, elle commençait un peu
à baisser,
et les graphismes m'ont éclaté, et autant sur PS3 que sur Xbox, et ce jeu est magique.
Ou PC,
exactement. n'oublions pas le PC, c'est vrai. Oui. Tu as raison, Caféine.
Heureusement que t'es là.
Et donc voilà, et il y a encore plein de choses qui arrivent dans l'univers Street, et voilà, c'est pour valider ça. C'est juste que Street Fighter Forever, quoi.
Eh bien, très bien. Eh bien, justement, avant juste de donner ta déception de la saison, Tiger, je pense que tu peux prévenir la Team B, la deuxième équipe qui va pouvoir bientôt nous rejoindre, Julo Trazom et Tiger Suplex, pour parler de leur jeu. aussi puis faire le fil de l'année en cours. Mais avant cela, ta déception, il s'agit de...
Bah, Gran Turismo 5.
Oh là là, heureusement que Traz n'est pas là. Parce que
et bah
sinon,
oui, peut-être, mais.
Il en profite.
Il a beau dire ce qu'il veut, Traz, mais moi, je l'ai. Enfin, Gran Turismo, pour moi, ça a été pendant tellement d'années une référence ultime. Ouais. Là, j'ai attendu tellement ce GT5, comme tout le monde. J'étais tellement content qu'enfin qu'il arrive. Ses débuts chaotiques m'ont désespéré. Je trouve qu'en termes de gameplay, en termes réellement de réalisme de conduite, je m'y retrouve plus. Et je m'y retrouve plus d'autant plus que maintenant il y a Forza 3 et bientôt Forza 4.
Vous savez qu'il y a eu du mal à évoluer et à vivre avec son temps.
Ben,
je dis ça alors que Traz est à
1m50 et qui commence à m'envoyer des trucs, mais
ça commence à devenir tendu.
Voilà, je trouve que là ils sont passés à côté et alors que j'ai fini tous les Gran Turismo, c'est le premier où là à chaque fois que j'essaie de m'y remettre, j'ai dit non, et puis au final j'éteins ma PS3 et je vais me remettre Forza 3 quoi.
Après, on ne pourra pas dire en tout cas que monsieur Kazunori ne s'y connaît pas, puisqu'apparemment il a gagné dans sa catégorie au Nürburgring.
Oui, exactement, aux 24 heures du Nürburgring.
Donc plutôt chapeau, respect en tout cas. En tout cas, messieurs, on vous remercie pour ce premier passage, mais vous allez revenir dans quelques minutes. Allez, on se donne rendez-vous, à mon avis, dans une petite 20 minutes, demi-heure, et vous nous parlerez justement des tendances clés qui vous ont marqué pendant cette année, cette saison 2010-2011. Mais en attendant, eh bien, on vous quitte temporairement et je vous demande d'accueillir.
Allez, foutez-moi le camp.
Julo, Trazom et Tiger Suplex. Voilà, je pense qu'on pourra rajouter au montage des applaudissements complètement dingues. La seconde division, comme l'appelle
un micro par main.
Cyril Drevet. Alors messieurs, vous allez voir, ici il fait bon vivre.
Ah bon,
il fait
ça sent bon.
8 millions de degrés, oui, ça
oh mon Dieu,
pas.
Chaleur.
Quelque part, vaut mieux pas quitter la pièce, au moins comme ça t'es habitué, t'es dedans, t'es dans ton jus. On va commencer avec toi, Traz, justement.
Exactement, bonjour à tous.
Il y a quelques instants à peine, Cyril Drevet disait que sa déception c'était Gran Turismo 5. Et toi, on va commencer dans quelques minutes, mais avant, je t'explique si tu n'étais pas là, on commence par 3ème position, 2ème position et le dernier. Donc, quel est ton 3ème jeu préféré de cette saison? Et là, c'est une surprise.
Pourquoi c'est une surprise?
Bah parce qu'il n'est pas, exactement. Il n'est pas sur console ni sur PC.
Exactement. Et oui, bah j'ai osé. Il fallait bien mettre les jeux qui nous avaient le plus éclaté cette saison. Donc pour moi, c'est Angry Birds Rio. Je sais, c'est étrange.
Donc sur smartphone.
Voilà, exactement. Sur iPhone en l'occurrence, mais il existe aussi sur Android, etc. Parce que je me suis tout simplement éclaté. J'ai adoré. Et je continue d'y jouer parce qu'il y a des mises à jour quasiment tous les mois. Mmh. Et franchement, c'est génial quoi. C'est un petit jeu super addictif. Donc avec les fameux oiseaux. Cartonne des singes ou des cochons verts.
Bah ça fait un petit peu partie, ça valide le fait, une tendance qu'on a soulignée pendant justement cette saison de la prise d'importance, en tout cas du marché du jeu sur smartphone. C'est pas là pour la comparer, savoir si c'est mieux ou c'est moins bien, mais en tout cas clairement c'est en train de prendre une place non négligeable.
Exactement. Bah le but c'est de savoir avec quel truc on s'amuse. Bah moi je me suis amusé avec ça et je continue de m'amuser avec ça, tout simplement.
Deuxième place de ton classement de la saison, un jeu d'aventure pas piqué des hannetons.
Oui, The Next.
Comme on dirait il y a 10 ans.
Exactement. The Next Big Thing, parce que il faut bien un jeu point and click qui fasse parler un petit peu de lui, et c'est celui-là, donc c'est celui de Pendulo Studios qu'on fait tous les Runaways. Et franchement moi je me suis vraiment
complètement délirant.
Ouais, toujours aussi délirant,
les monstres qui arrivent sur Terre, mais ambiance un peu loufoque quoi.
Ouais, c'est complètement absurde, avec des dialogues vraiment mieux que sur les Runaways. Ils ont bien bossé là, beaucoup mieux je trouve, et franchement c'est toujours aussi sympa, avec des énigmes bien tordues à chaque fois, etc. Mais bon, on prend toujours son pied quoi, et puis il y a une bonne durée de vie quand on triche pas trop avec les aides, mais franchement voilà.
Disponible sur PC
et Mac. Oui, tout à fait.
D'accord. Et pour l'instant, pas prévu sur console.
Non, non.
Okay. À noter, tiens, j'ai juste un tout petit truc pour prévenir les gens. Si vous prenez le jeu sur le Mac App Store, il ne propose pas la VO sous-titrée. T'as que la VF qui est apparemment toute pourrie, ce qui n'est pas le cas de la version boîte. Donc attention.
Ah, voilà. Ouais.
Il
est dématérialisé à ses limites, visiblement.
À moins qu'ils le mettent à jour, bien sûr, ce qui sera fait sans doute.
Et attention, devant une foule médusée, la surprise des surprises.
Liquéfié.
Quel est ton premier jeu, ton jeu préféré de cette saison? Attention, surprise énorme.
Surprise gigantesque. Mais Gran Turismo 5.
Ah, c'est pas possible.
Évidemment. Parce que, contrairement à ce que dit Cyril, moi j'ai adoré. et vraiment, c'est. Pour moi, le jeu de course le plus complet à l'heure actuelle.
Même si tu lui reconnais quand même quelques défauts.
Bien sûr qu'il a des défauts, et j'en ai parlé dans mon test, et c'est pour ça qu'il a pas eu la note maximum. Hein. Oui,
Oui, tout à fait.
Fais pas ton malin, Julien. Parce que...
On se page, crois de moi.
Voilà, c'est vrai que c'était un peu fort. Mais franchement, j'ai adoré. Oui, c'est vrai qu'il a des défauts, notamment au niveau du rallye, c'est pas ultra beau, ultra bien fait, hein, au niveau des sensations, etc. Mais franchement, globalement, c'est.
Ça reste une tuerie, quoi. C'est l'expérience la plus complète quand on aime le sport
mais
automobile.
Oui, évidemment, évidemment. D'ailleurs, ceux qui ont joué à ce jeu-là, et notamment des
sont devenus des champions
des jeunes garçons effectivement qui ont piloté après avec la GT Academy, ils ont réussi à faire des scores enfin des résultats extraordinaires quoi, alors qu'à la base
il y a pas d'Académie de Forza par exemple, donc tu peux pas savoir si c'est le cas pour Forza aussi.
Non mais ça marcherait pas.
Bah tu, c'est toi qui le dis, mais
avec des roues qui touchent pas la bitume, excuse-moi, mais
on est reparti.
Demain tu fasses un championnat de voiture volante. voilà, donc c'est mon top numéro 1, Gran Turismo 5.
Voilà, en tout cas, bah, choisissez votre camp, hein. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez, visiblement, en tout cas, c'est un jeu qui ne peut laisser indifférent, et quelque part, c'est aussi bien ça qui est intéressant. Mais maintenant, ta déception. Et on va la nuancer, parce que, en fait, quand on a commencé à faire tout ce listing, la réalité, c'est que t'as eu du mal à trouver quelque chose, un jeu qui t'avait vraiment fondamentalement déçu.
Bah, parce que déjà, d'une part, j'ai pas joué à tous les jeux, je sais qu'il faut pas le dire.
Moi, je croyais que tu étais Camour.
Pourquoi faut pas le dire?
Comment?
Pourquoi faut pas le dire?
Non, je dis ça pour déconner.
Ah bon, d'accord.
Il n'y a pas de souci. Oui,
comprends c'est. Comprends que les blagues belges.
Excusez-moi. C'est Dirt 3, effectivement, et je crois que Cyril, d'ailleurs, serait d'accord avec moi.
Oui, il valide. Voilà. Il est en bas, assis.
Pour une fois qu'on est d'accord sur un jeu de voiture. Voilà. Bah, Dirt 3, oui, pour moi, le fameux Gymkhana, l'espèce de rodéo.
Pour débile manteau.
Avec des figures machin, enfin. Ça n'apporte absolument rien, ça
c'est
m'intéresse
un truc
pas.
De
quoi.
Naze.
J'ai pas compris pourquoi ils avaient mis ça. Au détriment du vrai rallye, entre guillemets, quoi. Mais le peu qui est fait est bien fait, mais. Enfin, moi, je sais pas, je suis quand même déçu, quoi. J'entendais vraiment, vraiment mieux que ça. Et Cyril, il veut rajouter un truc.
Il veut
mon temps de parole.
En fait, c'est devenu un peu une pub pour Ken Block, quoi. Plus qu'un vrai jeu de rallye, quoi.
Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça fait vraiment la promo de Ken Block et le rallye à l'américaine. Et bon, voilà,
c'est
pas
Block,
trop ce qu'on connaît ici.
Block,
Ken Block. Ça, c'est une bonne blague.
Ah, Julo. Voilà. Malgré la chaleur, plus en forme.
6 minutes, il fallait l'attendre, mais là, merde. Alors, Tiger, t'envoies.
Oui, j'ai très chaud, je
suis.
Je transpire beaucoup.
Je
crois que
d'ailleurs, t'as bien aimé Top Spin. Mais...
Oui, Top Spin 4, très bien aussi.
Eh ben écoute, merci pour ton classement.
Exact. Je vais à la piscine, là.
Voilà, l'alpha et l'oméga, c'est de la voiture en tout cas. Tu restes assez fidèle finalement
à
ton orientation mécanique. De l'autre côté, de l'autre côté du canapé, Julien
droite,
Hubert, Julot.
Ben
non, pas à l'extrême droite, c'est Tiger qui aura cet insigne honneur d'être de l'autre côté. Donc Julot, ton classement, on va commencer une fois de plus. Troisième jeu le plus apprécié de cette saison, et c'est un jeu qui a fait sensation parce qu'il n'était pas du tout attendu et qu'il est très bizarre, et que c'est
Deadly Premonition. C'est étrange. Hein.
Non, mais tu te fous de notre gueule.
Non,
mais
il
l'a dit tout à l'heure. C'est juste pour se la péter.
Non, alors voilà, c'est pas pour faire mon bobo gamer. C'est juste que.
Ah bah pourtant.
Non, c'est juste que cette saison, j'ai joué au jeu de 2009. voilà. Donc, forcément, mes jeux de l'année, voilà, ça va être Alan Wake. Ça va être. Enfin, qui sort en 2010,
Jaguar,
mais début 2010.
Super Mario World.
Ça va être Alan Wake et Assassin's Creed 2, tu vois, mais j'ai pas le droit.
Pas
mais
dire,
donc, je dis Deadly Premonition, qui est un jeu qui m'a vraiment.
Qui est un jeu de 2005.
Remué. Voilà.
C'est de Dreamcast. Ouais.
mais c'est vrai que ça ressemble à un jeu Dreamcast.
Mais tu l'as particulièrement apprécié, et pour quelle raison?
Alors, c'est un jeu très étrange qui s'inspire de manière très forte de Twin Peaks, la série de David Lynch, et qui le fait bien avec plein d'idées géniales, mais exécutées avec, je sais pas, des gens qui développaient le premier jeu de leur vie, j'en sais rien, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Il a mis très longtemps à sortir ce jeu, et apparemment il y a eu des difficultés au niveau du développement, etc. Donc,
moi je crois que
quand
à l'image de Duke Nukem, c'est le top de ce qui se fait en matière de jeux d'aventure.
Et contrairement à Duke Nukem, il avait quelque chose de véritablement surprenant et de, bah voilà, de happant, quoi. Mmh. Voilà, il était incroyable, ce jeu. Il faut se faire violence littéralement pour y jouer, parce que c'est vrai que c'est pénible au niveau des scènes
rigide,
de voilà, le gameplay est extrêmement rigide.
Archaïque.
Voilà, c'est très archaïque, mais en même temps, c'est hyper novateur sur plein d'idées. Et voilà, il y a un vrai fond et une ambiance incroyable. Et puis voilà, un petit twist à la fin comme il faut, et plein de petites idées géniales. Donc j'ai beaucoup aimé, même si j'ai souffert.
Deadly Premonition, ton numéro 3, donc ton top. Et donc le second, et à partir de là, tu m'as volé tout mon top. Donc on va pouvoir le faire
je
à deux.
Je suis désolé,
moi j'ai déjà perdu le lien, je crois.
Il s'agit de
Limbo.
Limbo.
Alors voilà, c'est un des jeux de cette saison que j'ai fait cette saison. Et en même temps, c'était un jeu court, donc c'était facile. Et j'ai vraiment kiffé. Je l'ai fait en deux ou trois sessions. Et j'ai été vraiment complètement conquis par déjà le design, l'ambiance.
C'est un jeu qu'on trouve sur Xbox Live Arcade exclusivement, donc en téléchargement.
Ouais, tout à fait. Pas si cher en plus, je crois. Ouais, c'est 800 points, un truc comme ça.
1200,
1000 points,
je crois.
Ah bon.
Enfin bon.
Enfin, en tout cas, ça vaut clairement son pesant de Microsoft Points. Et c'est vraiment une super expérience visuelle, auditive même. Et
cérébrale. Voilà. Enfin, c'est un jeu de puzzle, quoi. Faut réfléchir.
Ouais, les puzzles, c'est un vrai jeu de puzzle. Hein, donc, quand c'est bien fait, c'est vraiment génial, les jeux de puzzle. Donc, j'ai adoré Limbo pour tout ça.
Je ne pourrais que
plus soyez, comme on dit sur Internet.
Justement, je vais pas dire ça.
Ah ouais, c'est l'horreur.
Ça me donne des frissons.
Plus sain.
Qu'être totalement en accord avec toi, c'est vraiment un petit jeu, mais un tellement belle aventure.
Ouais.
Et alors,
même si tu m'as spoilé un tout petit peu la fin, en me disant pas grand chose.
Ah, c'est le moment.
Mais je t'en veux toujours un petit peu.
Ah, qu'est-ce que j'ai dit ?
Bah, tu m'as.
Bah non, mais va pas spoiler tout le monde.
Et en fait, je trouve ça super important de la fin. En fait, vraiment.
Ouais. Elle est bien. Moi, je la trouve.
Ouais, super. Il se passe pas grand chose dans tout le jeu.
Et ton number one,
mon number one,
qui les a tous réunis.
Ah oui, voilà, c'est ça. Donc Castlevania Lords of Shadow, que j'ai trouvé vraiment génial. Je me rappelle que j'avais fait donc il y a deux ans l'interview de Dave Cox durant la Gamescom de Cologne, et il m'avait conquis déjà par son discours. Déjà, son préféré de Castlevania, c'est le 4, ce qui est mon cas aussi, celui de la Super Nintendo, qui est juste extraordinaire.
Alors là il a marqué des points.
Donc là, il a marqué des points déjà. Il m'a dit qu'il s'inspirerait de celui-là pour créer Lords of Shadow, et je trouve que c'est un peu ça. Il s'est ultra modernisé, mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment épique. Il y a quelque chose de vraiment nouveau dans l'exécution, mais qui je trouve hyper respectueux des traditions.
Il y a plein de
Sega.
Gens qui disent le contraire, justement.
Ouais, mais je suis absolument pas d'accord avec eux. Bah, écoute, on en discutera.
Mais il va te casser la gueule après, je crois.
Mais... Non. Je trouve que ça aurait pas eu d'intérêt de reprendre les musiques qui sont géniales dans Castlevania. Mais celles-là sont complètement différentes, et en même temps, le jeu respecte.
Il y a quelques approximations dans le gameplay qui peuvent être un peu horripilantes.
Bien sûr, des erreurs de genèse, je dirais. Mais globalement, le gameplay est quand même extrêmement bon. Quand tu arrives au moment où vraiment tu utilises la magie bleue, la magie rouge, et que ça sert complètement le gameplay, que ce soit dans les phases d'exploration, de puzzle et dans les combats qui sont sur la fin magistraux. Donc ça, c'était vraiment un pied intégral.
Sur cette génération, il y a peu de jeux d'action aventure de ce style-là, avec un peu de puzzle, un peu de plateforme, etc., qui ont cette espèce de décor, de voyage, d'immersion et d'élégance. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait
une vraie élégance,
une noblesse dans les voix, dans la musique, dans le style.
Bah, les voix sont superbes. C'est la voix de comment il s'appelle,
Capitaine Picard, Patrick Stewart.
Oui, mais t'as aussi celui du mec du Seigneur des Anneaux qui fait le.
Oui, je sais plus.
John Rhys-Davies.
Je m'en rappelle plus.
Saruman.
Je suis nul. Ouais, c'est Saruman.
Ah non, c'est
Christopher Lee.
C'est Christopher Lee qui fait machin. OK, bah donc voilà, les voix superbes, les musiques superbes, les univers graphiques incroyables. Franchement, le design est génial.
Ils sentent la générosité, quoi. Ils ont
ils ça ont a été un jeu tellement généreux, il est long, ça fait partie de ces jeux qui sont vraiment longs pour le niveau d'aujourd'hui. Et voilà. Et je tiens à dire juste un truc, contrairement à ce que tout le monde dit, pense, croit, c'était un Castlevania depuis le départ. Voilà, c'est pas un jeu qui a été développé comme ça et que Konami dans l'idée de Mercury, c'était de faire un Castlevania. Après, ce qui était dur, c'est de le faire accepter en tant que tel, mais c'était un Castlevania dès le départ, et donc tout le côté, on lui a collé juste un logo dessus, c'est pas vrai.
Et justement, la coup de théâtre incroyable, que se passe-t-il ? Je ne comprends pas ! Ta déception, c'est Castlevania.
Les DLC.
Ah oui,
ouais.
Tu nous as
à 52 euros.
Ouais, très déçu par ces DLC parce que tous ceux qui ont joué à Castlevania jusqu'au bout ont vu la fin et la deuxième fin.
Et la meilleure fin de jeu vidéo pour moi.
Franchement, ça déboîte. L'histoire. Et tu te dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux fins? Et donc, on t'annonce des DLC dès le départ, il y en aura deux, vous allez pouvoir faire des trucs
qui
de
feront
ouf.
Le point sur la fin.
Qui feront le point scénaristique, etc. Et ben on l'a eu un peu dans l'os à ce niveau-là, parce que non seulement ces deux DLC,
c'est dans l'os de Coxis, non, je crois.
Ouais, sont très chers. Ils font un point à peu près, je sais pas, minuscule sur ce qu'on pouvait attendre du développement de l'histoire de Gabriel, qui est un personnage, on a oublié de le dire aussi, un personnage vraiment génial, Gabriel. Très travaillé, qui porte la tristesse sur son visage et tout, c'est génial.
Quant au Pokémon.
Et donc c'est DLC, un peu du foutage de gueule. Et c'est...
Beaucoup même.
S'ils avaient été au moins regroupés pour le même prix, ça aurait été pas mal, mais voilà. Payer deux fois, je ne sais plus combien de points.
Bah ça fait 1600 points au global, parce que c'est 800 chacun et c'est bien trop beaucoup, c'est bien trop pour la faiblesse de l'expérience.
Tout à fait.
Allez, on enchaîne très rapidement avec Tiger Suplex. Tiger Suplex saison 2010-2011. What about number 3?
Mon numéro 3, c'est Super Meat Boy. Voilà, le porte-étendard du jeu indé. Je l'ai choisi aussi parce qu'il est bien représentatif de toute cette créativité qu'on trouve avec les plateformes de téléchargement. Je sais que tu as adoré Outland. Ouais. Moi, j'attends Journée sur PS3. Enfin, grâce à tous ces jeux en téléchargement, il y a un foison là, de créativité.
Un foison, pas encore. Il y en a quand même moins que des shooters. Hein.
Certes, mais on sent que tu vois qu'il y a quelque chose qui gronde, quoi. Il y a un truc qui se prépare et puis il y a vraiment des talents qui émergent. Et Super Meat Boy, c'est la quintessence pour moi du pur jeu vidéo. C'est vraiment aller d'un bout à l'autre d'un niveau. C'est ultra dur. Tout le jeu est basé sur sa difficulté, mais c'est super marrant. C'est bien foutu. L'univers est vraiment rigolo. Voilà. Et c'est tellement la mécanique de gameplay est tellement aux petits oignons que même si c'est super dur, on meurt 50 fois par niveau. C'est absolument pas frustrant. Donc j'ai adoré Super Meat Boy.
Number 2,
Child of Eden. Pour une raison très simple.
La drogue. La drogue qui va avec.
Ah, dis pas non.
Les flics débarquent. On sait que Mizuguchi a beaucoup traîné dans les rave parties. C'est un grand fan de musique électronique. C'est une expérience qui se termine très rapidement. Il faut à peine 2h30 de jeu pour terminer Child of Eden. Au niveau du gameplay, c'est un shooter, un shoot 'em up. Mais là où il est très intéressant, c'est que on est coincé, j'ai l'impression, dans le jeu vidéo, entre d'un côté la narration, ce qui est très bien, hein, Red Dead, Castlevania, tout ça, on suit des histoires épique, et de l'autre côté des choses un peu plus, pas péjorativement mais un peu neuneux, tu vois, où on tire, on rigole, c'est de la baston et tout, et entre les deux, bah j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Et là, Child of Eden, t'as vraiment une expérience où t'es pas dans le narratif, où t'es pas dans le boum boum débile, on rigole, ce qui est très bien aussi, hein, Super Meat Boy d'une certaine manière c'est du débile rigolo, quoi. Mais voilà, une espèce de troisième voie où on est entre l'art vidéo, le shoot 'em up, vraiment un jeu avec la musicalité. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai écrit dans le test, je vous conseille vraiment en fait d'y jouer à la manette, pour le rythme, pour les sensations, la vibration et tout ça. Et certes, ça ne dure que 2h30, mais pendant 2h30, moi j'ai vécu un véritable trip, quoi, avec
une expérience synesthésique, on dit.
Exactement. Et c'est pas si souvent qu'on a, tu vois, la chair de poule quand on joue à un jeu.
Une espèce d'osmose avec le jeu.
Voilà.
Et te met dans un état second.
Voilà. Et je crois que le jeu vidéo, ça doit être aussi un terrain d'expérimentation. Et voilà.
Ouais. Okay. Number one,
Pokémon.
Ah ouais, tout le monde attend Pokémon normalement.
Attends, je sais plus ce que j'ai mis.
Et non, tu n'as pas mis ça.
Si,
tu as mis un jeu PC.
Très surprenant, un jeu PC, que j'ai découvert ce week-end.
Il arrive directement dans ton numéro.
Ouais, direct. C'est The Witcher 2.
C'est dire, hein.
Révélation, quoi.
Et je peux te dire que c'est le jeu qui me fait un peu comprendre le mépris que peuvent avoir les joueurs PC vis-à-vis des joueurs console par moment. Parce qu'on parlait, vous parliez de Castlevania, d'une ambiance, voilà. Mais quand tu découvres The Witcher 2 en termes de narration, en termes de
visuel, hein.
Ouais, déjà bon, c'est super beau, vraiment c'est magnifique. Après bon, faut le PC qui le fait tourner, mais en termes d'écriture, l'immersion qu'on a dans le jeu, enfin moi j'ai été complètement bluffé, quoi. C'est-à-dire je me suis pris ça dans la tronche et je me suis dit oh là là, mais quand
la
est-ce qu'on aura une expérience
et,
comme ça
et mature.
Ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tout est crédible, quoi. Et comme je voulais expliquer plus tôt dans la journée. Voilà, exactement. Il y a des choses qui sont bluffantes, genre quand tu rentres dans une maison ou dans une église, t'as la sensation dans une bonne auberge. T'as l'impression que tout est crédible dans le sens où s'il y a un coffre qui est là, t'imagines que oui, il y a des gens qui peuvent stocker des trucs là, qu'il y a une vie qui se passe, quoi. En termes d'immersion, c'est vraiment fabuleux. C'est super bien écrit. C'est super beau,
c'est assez cru.
Voilà. Ah oui, complètement. Il y a du cul, les gens.
Pas la God of War.
Mais voilà, non, mais t'avais que ça à dire, c'est pas la peine d'en rober le reste. Il y a du cul.
Non, mais pas du tout.
C'est
très immersif.
Et la crudité.
Donc voilà, je voudrais juste un super beau PC pour pouvoir le faire tourner parce que pour moi, c'est le jeu de l'année. En espérant que la version Xbox soit à la hauteur de la version PC.
C'était ton jeu coup de cœur de la saison, mais maintenant ta déception. Déception.
Alors ma déception, j'en ai deux en fait, comme je l'ai marqué. Non, pas du tout. Pokémon, c'est très bien, mais fallait faire un tri. Il y a eu plein de bons jeux.
J'ai rien dit.
Si, t'as dit Pokémon
blanc et noir.
Non, mais il y a eu tellement de bons jeux. Okamiden aussi sur DS, qui était un super jeu.
Okami déception.
Non, pas du tout. Ma déception, c'était Dragon Age 2. Si je veux dire que c'est ma déception,
voilà.
Je dirais que c'est ça. Mais un peu comme Raon. Mais la vérité, en fait, c'est un jeu dont personne n'a rien à foutre à part moi. C'est Captain Tsubasa qui est sorti sur DS. Et je vous dis pourquoi. Parce
j'en ai pas rien à foutre.
C'est
je
vrai
suis avec toi.
Parce que j'adorais à l'époque quand j'étais mioche. Bon, le dessin animé évidemment, la version Super NES en RPG qui était fabuleuse,
les versions
Super NES,
Captain Tsubasa 4
de Tecmo, j'ai adoré la version PS2, même si c'était au bout de 2 heures, c'était ultra répétitif, toujours les mêmes animations,
c'est beaucoup moins bien que sur Super NES.
Il y a un tir du tigre machin, moi je deviens fou. Et sur DS c'est juste super naze quoi. Donc voilà, c'était ma vraie déception, parce que Dragon Age 2 finalement j'en attendais pas tant que ça, j'espérais être surpris, et puis bon voilà. Donc voilà,
et bien très bien, maintenant on va passer à Raon, on va accélérer un tout petit peu si on veut.
Ça va être facile, tout le monde a déjà mis
voilà,
mon top 3. Et
Donc en numéro 3.
Alors en numéro 3, c'était Assassin's Creed Brotherhood.
Très bien.
Voilà.
En numéro 2, si on va gagner du temps.
Tiger.
Starcraft 2, et effectivement je reviens sur la campagne solo.
Non,
vite fait. C'est que pour un jeu de stratégie temps réel, il y a vraiment énormément de soins à porter à la narration, et c'est pas un truc qu'on attendait. Et mine de rien, ne pas décevoir avec autant d'attentes, je crois qu'il y a pas beaucoup de jeux. Voilà, il y a pas beaucoup de jeux qui y arrivent.
Ah, imagine quand Shenmue 3 va sortir, laisse tomber.
Ouais.
Tout le monde va.
On va en parler tout à l'heure, Julo.
On verra.
Laisse le suspense. Et en numéro 1,
Portal 2.
Voilà.
Portal
2,
j'ai déjà tout dit dessus aussi. C'est fantastique. C'est un très 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 grand jeu à tous les niveaux, en termes de game design, donc de concept, de mécanique de jeu, et puis l'univers, l'histoire, l'humour. C'est le jeu qui m'a fait le plus rire depuis peut-être 3 ou 4 ans, je pense.
Et voilà. C'était quoi avant ? C'est le jeu il y a 3 ou 4 ans qui t'a fait.
Là tout de suite, si tu veux qu'on avance, il va falloir que je te dise ça tout à l'heure, parce que là je m'en souviens plus.
C'est à la fin.
C'était Portal. C'était pas Portal, non.
Et ta déception, c'est ce qui t'a fait un peu moins rire.
Oui, c'était Dragon Age 2. En fait, il y a plein d'autres petits trucs qui m'ont déçu, mais Dragon Age 2. Et à plus forte raison quand t'as Witcher 2 à côté, alors là c'est encore pire. Tu te dis, mais putain, mais laissez tomber les gars, arrêtez de faire des RPG. Si c'est pour nous faire ça, ça n'a aucun intérêt.
Mais au fait, Julien, quel est ton top ?
Ah, quelle surprise ! Je l'ai noté ou pas ? Oui. Ah bah mon top, il y en a un qui n'a pas été encore cité, c'est justement mon troisième jeu préféré de l'année. Et ça se passe sur iPhone et iPad, et il s'agit de Super Brothers Sword and Sorcery EP. Un jeu qui justement on peut télécharger une fois et qui est vraiment pas cher, qui je crois est 3,99€, et qui est compatible à la fois sur iPhone et iPad. Et donc c'est un.
On peut même l'avoir pour moins cher uniquement sur iPad si on veut.
Sur iPhone.
Et donc c'était un jeu d'aventure un peu à l'ancienne, un peu point and click, à la convergence de plein d'hommages. Il y a du Another World, il y a du Ico, il y a du Shadow of the Colossus, il y a du Zelda bien sûr.
Avec un délicieux pixel art.
Exactement. Une musique, une BO absolument incroyable.
Aux oignons.
Vraiment, je vous invite à acheter, à vous procurer sur iTunes, les 8 ou 9€, donc plus cher finalement que le jeu, mais vraiment elle est absolument géniale. C'est un grand voyage, un beau voyage au niveau du gameplay, c'est finalement somme toute assez sommaire, mais c'est bien utilisé. Ça veut dire que pour combattre on tourne son iPhone ou son iPad, et du coup le héros brandit son épée, enfin l'héroïne plus précisément brandit son épée, en appuyant elle se cache derrière son bouclier. C'est vraiment une question de timing. Il y a des moments où on joue finalement avec de la musique, d'autres moments avec de l'observation, d'autres moments avec de la réflexion, et c'est vraiment un très très beau voyage. Ça dure 4-5 heures, c'est pas très long, mais moi ça m'a laissé un souvenir assez impérissable, et c'est une fois de plus la preuve que ces petits jeux dématérialisés et indépendants arrivent à nous procurer des sensations tellement rafraîchissantes par rapport à des blockbusters surmédiatisés et tellement attendus, que finalement on est saisi comme ça dans un vent de fraîcheur
folie.
Bah vraiment voilà, j'ai aimé cette belle aventure.
Moi j'aimerais bien un petit vent de fraîcheur, moi aussi perso.
Ouais, pareil. Mais alors en numéro 2.
Et d'autant plus que pour beaucoup de personnes pour qui justement les plateformes, les smartphones sont dédiés qu'à des jeux très casual, avec des prises en main très simples, et des petits jeux sur lesquels on passe 3 minutes, et puis c'est que
là,
des parties
pour le
très
coup,
courtes. Là c'est plus une aventure un peu plus au long cours.
Enfin, ça reste casual, c'est très accessible. Hein,
voilà, c'est très accessible, mais ça demande un petit peu plus de manipulation et de réflexion, et c'est vraiment très intéressant. En numéro 2, je rejoins Julo avec Castlevania Lord of Shadow, moi qui m'a absolument ébahi. J'ai été vraiment pris dans cet univers visuel et sonore, parce que les musiques idem, moi je les ai trouvées absolument incroyables.
Et l'évolution du personnage et le gameplay aussi qui fait son travail.
Exactement.
Très bien.
Et j'ai la chance, et là je vais m'aliéner nombre de fans, mais je suis pas un extraordinairement spécialiste et fan des précédents Castlevania, et du coup je l'ai découvert.
Lesquels? Parce qu'il y a...
J'ai bien aimé le 4 effectivement, mais que je n'ai pas fini.
D'accord.
Jamais en fait Castlevania m'a plus pris.
C'est ceux en fait en mode.
Non mais aucun, je cherche pas.
Okay. C'est pour ça que tu t'entêtes à dire Castlevania.
Oui, Castlevania.
Castlevania.
Et du coup, je suis arrivé de manière neutre en fait. Et vierge sur ce jeu que j'ai pris comme un jeu d'action-aventure, finalement un peu comme un autre. Je m'en foutais de savoir si finalement il était cohérent ou pas par rapport à l'univers classique des Castlevania. Sorry for that. Et du coup, j'ai vraiment pris mon pied grave, et ça fait partie des jeux qui, comme tu le disais, ont une durée de vie finalement assez conséquente, que j'ai vraiment rushé comme ça, et j'ai pris mon pied jusqu'à 5h du matin pour le finir. Et c'est vrai que la fin, à mes yeux, reste parmi, dans le panthéon en tout cas, des plus grandes fins d'histoire des jeux vidéo.
Quand t'es surpris comme ça, c'est cool quand même.
Ah, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça grandiose. Et comme toi, les DLC m'ont apitoyé. Et en première position, mon number one, eh bien, c'était il y a presque un an. C'était en juillet dernier.
Oui.
Et c'est pas une prouesse technologique, il est en noir et blanc. Et c'est Limbo, comme je ne sais plus qui ici, mais.
Moi-même, encore une fois.
Bah voilà. Finalement, nous ne partageons pas que le prénom.
T'as commencé à devenir furieux d'ailleurs. Tu m'as déçu.
Non, parce que j'ai pas eu le temps. J'essaie de faire.
T'as pas envie de te faire mal, c'est tout.
Je serais curieux de savoir si tu vas y arriver, moi.
Enfin, les Deadly Premonition, ouais. Franchement, ça ne me tente pas. Pour tout ce que j'en ai vu, j'en ai vu beaucoup de souffrance.
Je sais très bien qu'aucun de vous les joueurs.
Mais donc, ce number one, c'est
Limbo.
Je peux
raconter ce que je veux là-dessus, tout le monde peut me croire, sans parole. Ou si j'aurais jamais.
Et j'ai trouvé que c'était un magnifique cauchemar et une très belle manière de raconter une histoire sans pour autant y mettre beaucoup de mots, voire aucun, un peu à l'image de Flower, et que c'est finalement un jeu bien plus mature qu'on ne le croit. C'est un jeu déconseillé aux moins de 18 ans. C'est
un jeu super
dans lequel la mort
titre.
Et la sanction
que j'ai
très
fini
présent.
Avec ma fille quand même, je précise.
Ah bah bravo.
qui avait 9 ans à l'époque.
Mais j'ai
combien 9 ans.
Oui.
Ah bah,
de quoi Limbo?
Elle a pas flippé sa race?
Non.
Non, ça fait pas très peur.
Non,
mais,
ça fait pas peur aux enfants à Limbo.
Violentes et sont brutales.
Ouais. Non, mais ça l'a pas.
Non, mais même, c'est un univers d'angoisse quand même. Enfin, c'est un peu.
Ouais,
mais
on.
C'est pas forcément juste les morts qui sont super flippantes, c'est juste toute l'ambiance.
Les enfants doivent être mis face à la peur,
à la réalité du monde, tu comprends?
Après, quand tu le fais avec des trucs trop violents, c'est pas bien, mais.
Bon, bon allez, on s'en fout.
Par exemple, elle a eu beaucoup plus peur de la sorcière de Blanche-Neige, ma fille, par exemple.
Comme ça, c'est normal.
Elle est terrifiante pour les enfants.
Voilà, c'est.
Elle fait très peur. Puis surtout, elle est avec sa folle, vraiment... une pomme. Mais c'est qu'on est
exactement.
Que tu manges tous les jours.
Elle est traumatisante pour les enfants, la sorcière.
Bon, quoi qu'il en soit, Limbo, j'ai surkiffé. Et j'ai préféré vraiment à Braid, par exemple, où je trouvais les mécanismes parfois tellement ardus que j'avais l'impression de les réussir. Alors, je me disais, soit je suis un génie mental, soit j'ai fait un peu au pif. Alors que j'ai eu la sensation dans Limbo d'être constamment en contrôle et de quand je trouvais
ça t'aurait
c'était
plus
vraiment
si,
ma réflexion
si t'avais eu la sensation uniquement d'être un génie mental là ça t'aurait
mais comme je savais pertinemment que sur
copyright
ça,
moi quand même
et que vraiment je le faisais au pif alors que dans Limbo j'étais vraiment toujours en contrôle et ça j'ai aimé et ma déception de cette saison
c'est Flower 2
c'est pas que le jeu est extraordinairement mauvais loin de là mais c'était j'y avais placé tellement d'attentes c'est Elle est noire avec ses interrogatoires que moi je trouve vraiment binaires avec ses sanctions avec cette sensation de ne pas contrôler justement les interrogatoires comme tu le souhaiterais, de ne pas dire et de ne pas réagir comme toi t'aurais envie de réagir et de te douter et finalement de voir un mec qui s'excite et qui s'énerve et qui donc va braquer le témoin, ça me frustre. Ces séquences où finalement on fait constamment la même chose, c'est-à-dire passer au crible, au peigne fin, la séquence de crime, après l'interrogatoire, après petite séquence de gameplay et on recommence. Et on recommence. Finalement, j'ai eu du mal, hormis cette ambiance que je trouve incroyable et la technologie avec les visages que je trouve prodigieuse, à vraiment rentrer dedans et ça m'a fortement déçu.
C'est dommage parce que tu as
raison, ce sont les défauts du jeu. Mais cela dit, je te trouve un peu violent de le mettre en déception de la saison, quoi.
Et bah pourtant...
Je pense parce que c'est récent.
Non, mais je sais que j'ai plus envie d'y jouer. Voilà.
Mais c'est con parce que c'est vraiment
que tu t'arrêtes vraiment au moment où ça décolle, moi je trouve.
Ouais, mais le problème, comme le dirait Shigeru Miyamoto,
oui, si dans la première demi-heure.
Oui, enfin j'ai joué un peu plus qu'une demi-heure quand même, beaucoup plus,
mais c'est vrai, t'as raison, c'est un vrai défaut là. Attends, je doute de ce qu'il dit. Mais tu vas dire la vérité, bordel!
Non, mais voilà, c'est comme 400 pages. Si ça commence à devenir bien à la 320e page, c'est.
Oui. Tout à fait.
Voilà quoi. Allez, on va passer à la deuxième partie de ce putain de podcast.
Alors qu'est-ce qu'on reste?
Et on va aller. Bah, vous restez. Mais on va aller.
aller sensiblement plus vite. Ce sont chronologiquement les temps forts qui ont marqué cette année. Je vais vous demander des réactions, somme toute, assez rapides.
Assez rapides, n'est-ce pas?
Des jugements brefs et éclairés. Donc le 15 septembre dernier, c'était l'arrivée du PlayStation Move qu'on va jumeler avec le 10 novembre et la sortie de Kinect avec donc l'arrivée des motion controllers. Maintenant, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émergence et en tout cas de ces réponses de la part de Sony et de Microsoft à finalement la Wiimote de Nintendo, messieurs?
Eh bien oui, c'était
pour moi, c'est un... Pardon, vas-y, Ran.
Qui levait la main.
Vas-y. Moi, je trouve qu'elle n'a pas apporté grand-chose, voire rien du tout. En particulier, Kinect, dont j'attendais qu'il puisse être utilisable pour des expériences gamers, pour le moment, n'a pas livré cette promesse-là.
Il a livré son verdict.
Voilà, en gros, donc... franchement, qu'ils existent ou pas, je m'en fous un peu, moi, en tant que joueur. Hein, après, je conçois que ça soit bénéfique.
Ça n'a pas si mal marché que ça, s'il est là, froidement...
Ah non, mais ça a même très très bien marché, Kinect.
C'est plus de 10 millions d'exemplaires
Kinect, ça a cartonné,
en moins d'un an. Hein,
donc et ça va faire jouer des gens, donc c'est très bien pour l'industrie. Mais à titre personnel, il ne rentre pas dans ce que j'attendais de...
Oh bah, quand on est gamer, très clairement, Kinect, on se marre, quoi. Enfin, pour l'instant, on n'a pas trouvé encore l'expérience.
Ils auraient pu faire un peu...
Attends un petit peu, il y a le Fable qui arrive, on pourra conduire une calèche.
Non, mais le pire, c'est que ça peut être pas mal, mais je veux dire,
est-ce que c'est un avis qui est globalement partagé ici?
Bah, pour les gamers, oui, effectivement, on a raison. Maintenant, je pense que Kinect et PS Move, pour moi, c'est des façons de jouer en famille, quoi, tout simplement. Moi, c'est vraiment pour les familles.
Kinect Animals,
si, voilà, si t'as des enfants, etc.,
et de la place, ouais.
Si t'as des gens qui connaissent rien aux jeux vidéo, quelque part, bah. Pour eux, c'est tout ce qu'il faut, quoi. C'est très rapide et puis voilà.
Est-ce qu'on peut reprocher effectivement à Kinect qui est ce manque de précision, même s'il a le côté magique en plus par rapport au Move? Le Move a le mérite en tout cas d'être beaucoup plus précis, même s'il n'est pas très sexy, parce que finalement c'est une sorte de Wiimote.
Exactement.
Améliorée,
bah, c'est comme une manette. C'est précis. Voilà.
C'est Wiimote qui
manette,
marche. Hein.
Tout simplement. C'est vrai que c'est...
Alors attends,
qu'est-ce qu'il dit, Cyril? Que dit-il,
Cyril?
Je disais que Kinect, c'est pas forcément un manque de précision, c'est du lag, c'est le lag qui est extrêmement important, parce que
mais
si tu regardes bien le mouvement, bah oui, mais c'est...
S'il n'y avait pas de lag, il y aurait de la précision.
S'il y avait pas de lag, il y aurait de la précision, parce que si tu fais un mouvement, quand même, le mouvement est suivi.
Mais après, ça veut pas dire que tu vas le faire avec tes mouvements.
Mais
quoi.
C'est le...
Pas exactement.
C'est
y a vraiment les
temps de réponse qui est énorme, quoi. Le temps de réponse de ton corps et le temps de réponse du système.
En tout cas, pour l'instant, quand on est gamer, c'est clair que... en tout cas, clairement, du côté de Kinect, on n'a pas trouvé de titre qui nous a emballé plus que ça. Et du côté même du PlayStation Move, même si il est compatible sur certains FPS.
Mais voilà, l'avantage
bien,
du
PS, je crois. Alors, Killzone 3, nous dit Alain.
Voilà, Killzone 3, avec
sorti de là, c'est pas non
Move,
plus le bout du monde, quoi.
Ah ouais, Alain. Non, Killzone 3.
Mais toi, tu l'as fait entièrement sur.
Je l'ai
sur
fait
Move.
Entièrement au Move, ouais, vraiment. Et je retrouve les sensations que j'avais. Moi, j'étais fan, je l'ai dit souvent ici, de la Wiimote sur les FPS, sur la Wii. Sauf que c'était vraiment moche, il faut le reconnaître, alors que là d'un seul coup, c'est vraiment bien, c'est précis, il y a nos problèmes, et je trouve ça vraiment beaucoup plus agréable que la manette pour un FPS, et j'espère qu'il va y en avoir plein d'autres, vraiment.
Écoutez, donc c'est pour les familles et les vieux.
Eh oh, t'es pas tout jeune
non
plus.
C'est pas pour les cons.
Bon allez, on continue. Fin octobre dernier, c'était la première édition du Paris Games Week, donc le plus gros salon à ce jour de jeux vidéo en France. Il y aura une deuxième édition qui se tiendra à la rentrée prochaine, du 21 au 25 octobre 2011. Qu'est-ce que vous aviez pensé de cette première édition, messieurs, qui avait quelque part enterré quand même le festival du jeu vidéo en une saison?
Ah bah, il y avait déjà, moi je trouve que, alors pour nous, c'est pas forcément, c'est pas un salon qui s'adresse à nous déjà, donc
c'est un salon public.
Voilà. Mais quand t'es joueur et que t'arrives sur place et t'as une bêta de Gears of War 3, t'as une présentation de Deus Ex, t'as etc. toutes ces choses là, je trouve que même pour une première édition, il y avait pour les gamers en tous les cas des tas de choses vachement intéressantes à découvrir, ce qui était pas forcément gagné d'avance. Ça aurait pu être juste un salon très consumériste où tu viens acheter des jeux et basta, quoi.
Et la volonté de faire le show aussi, effectivement, que certains gamers hardcore ont reproché, mais qui aussi permet d'être festif.
C'était festif, mais effectivement, pour moi, la plus grande qualité, ce que vient de dire Aaron, c'est que quand t'es joueur, t'as un salon à Paris qui te permet de jouer à des trucs complètement exclusifs.
Mais qui était déjà
ça,
le cas du festival du jeu vidéo.
C'était déjà le cas du festival du jeu vidéo, et pour moi, enfin, je vois pas une différence monumentale.
La taille du stand Sony.
Voilà. Et la communication, voilà, qui était encore plus forte. Mais cela dit, le festival du jeu vidéo, c'était déjà très bien.
Ouais,
et finalement, l'un a remplacé l'autre par la force des choses, la force brute
de Dieu.
Voilà.
Des syndicats des éditeurs qui s'est regroupé, qui a voulu vraiment faire son salon. Mmh. Et effectivement, quand même, ce qu'on pouvait clairement lui reprocher, au-delà du fait d'avoir gonflé les chiffres, parce qu'ils ont annoncé 120 000 personnes, et très clairement, on a des informations qui nous porte à penser que ça a été infiniment moins que ça, même si c'est un beau succès, très clairement. C'était très PlayStation-centrique, puisque le président du CEL n'est autre que Georges Fornay, qui à l'époque encore était président de Sony, et que la scène centrale, qui là regroupait tous les jeux de différents éditeurs, était vraiment été relayé sur le côté, et finalement la scène centrale,
disons qu'il avait
le PlayStation City,
il avait pas tout fait pour qu'on ne lui fasse pas cette critique, quoi.
Clairement pas. Espérons que cette année la pluralité soit plus respectée, même si on sait qu'en France c'est une réalité, la PlayStation 3 sur les consoles HD en tout cas est prédominante en termes juste de volume. Mais enfin bon, c'est pas pour autant qu'il faut se payer la part du lion. À la fois, Georges Fornay n'est plus président de Sony Computer France, donc peut-être qu'il y aura un petit peu moins de place, en tout cas une place plus normale.
Mais il reste président du CEL, non ?
Oui, il reste président du CEL. Oui.
C'est surtout ça le truc important, je pense.
À suivre donc. Le 27 janvier dernier, c'était l'annonce de la NGP, celle qu'on ne connaissait pas encore sous le nom de PlayStation Vita, la nouvelle console portable de Sony. C'était le 27 janvier dernier. C'est intéressant parce que c'est de voir que Sony a cassé... on parle beaucoup de l'E3 qui n'avait pas de grosses surprises, etc. Ils ont délibérément pris le parti de contrer Nintendo qui, à ce moment-là, lançait la Nintendo 3DS et donc d'annoncer finalement en avance leur nouvelle
portable.
Pas les
laisser occuper le terrain tout seul. Après, des tonnes et des tonnes et des tonnes de rumeurs quand même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... puis alors je pense qu'ils ont très conscience eux aussi qu'au niveau leak ça fuit un peu partout leur navire
là.
Ils ont
du mal là quand même.
Voilà, donc tant qu'à faire c'était faire aussi d'une pierre deux coups, c'est à dire que maintenant que ça commence à sortir et qu'on va pas maîtriser le bousin avant un truc, autant y aller quoi.
Ah, tu penses que c'est ça?
Ah, je pense aussi, ouais.
Moi je pense que c'est exactement comme l'Emotion Engine à l'époque, c'était contré.
Ah non, mais après effectivement ils savent le faire, ils ont l'effet d'annonce dans la peau.
On sait quand même globalement que il y avait des leaks qui étaient un peu organisés puisqu'ils avaient deux versions de NGP et que quelque part ils voulaient un peu voir d'où ça fuitait, etc.
Oui. Et la version qui slidait comme la PSP Go et la version normale d'aujourd'hui. Ouais.
Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça répondait dès le 27 janvier à ce qu'on pense un petit peu tous, c'est qu'aujourd'hui, les surprises ne sont clairement plus l'apanage des grands salons, et en l'occurrence de l'E3, et que maintenant les chronologies d'informations sont étalées sur toute l'année.
Je me demande d'ailleurs si ça sera de nouveau le cas un jour finalement, parce que.
Moi,
c'est mal engagé quand même. Hein.
Allez, 25 mars, elle était déjà sortie au Japon, mais c'était le lancement français de la Nintendo 3DS. Avec un petit peu de recul maintenant, on se rappelle qu'à l'époque, on avait été séduit par les Mi, etc. Bon, qui étaient certes gadgets, mais qui étaient mignons et qu'on pouvait s'échanger surtout. Et comme il
n'y
avait pas beaucoup de jeux, en Street Pass, c'était sympa. Mais quand même, on avait mis un gros bémol en disant le line-up est sympathique, mais n'est pas suffisant, en tout cas, à notre avis Gameblog, pour vous pousser à acheter une nouvelle machine à 250€, plus des jeux à 40€. Aujourd'hui, quasiment 3-4 mois après, j'ai l'impression qu'on pourrait dire encore la même chose.
Moi, j'y joue, mais juste sur Zelda. Ouais. Uniquement sur Zelda.
Non, mais je pense qu'il va y avoir le même problème. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur avec la Wii U. C'est que est-ce que les éditeurs tiers vont vraiment s'investir sur la 3DS
Pourtant, ils l'avaient annoncé massivement.
Il y avait le soutien de Capcom qui était édité par Nintendo chez nous avec le Street 4.
Distribué.
Ubi qui se positionne sur les consoles Nintendo visiblement à tous les lancements.
Mais leurs jeux sont. Enfin, les jeux.
Oui,
mais les jeux Ubi étaient quand même.
Tout à fait, c'était très médiocre. Et le jeu de stratégie qui avait beaucoup.
Ghost Recon.
Mais à part ça, c'est comme d'habitude parce que réfléchissez deux secondes de jeux qu'on attend. On attend le Star Fox 64, c'est Nintendo. On
Paper
attend
Mario.
Le Kid Icarus, Paper Mario, le Super Mario, qui va être excellent. Mais encore une fois, et bon, moi j'adore ces jeux, j'adore les jeux Nintendo, etc. Mais le problème, c'est que ça va encore phagocyter tout le reste. Quoi.
Mais au-delà de même des jeux qu'on attend, le démarrage est quand même très mou. Et c'est quand même la première fois depuis très longtemps, même si on sait que le démarrage de la DS n'avait pas été hallucinant. Là, on voit Nintendo quand même qui avait fait des annonces de chiffrés et ils ne sont pas du tout.
Qui visaient 5 millions et ils ont fini à 3,5
millions, même encore aujourd'hui.
Ils visaient 4 millions.
Non, je crois pas. Hein.
Si.
Moi, je crois que c'est 4.
Ils visaient 4 millions, ils ont fait un peu moins.
Voilà, ils l'ont fait plusieurs mois après. Mais le marché a beaucoup changé. Et très clairement, aujourd'hui, le marché de la portable, les gens, avant d'acheter, se posent plus de questions qu'avant, peut-être.
Et puis surtout, ils ont voulu laisser un boulevard aux éditeurs tiers en ne sortant pas tout de suite leur grosse licence. Et moi, je suis persuadé que ça va commencer à aller beaucoup mieux. Là, Zelda, elle a donné le top départ. Hein, moi, enfin, ça fait partie. J'ai pas de 3DS, j'ai pas envie d'en acheter.
Top départ, pas si fort que ça.
Si, ça y est, sur la deuxième semaine de Zelda, boum, la 3DS est passée devant la PSP. Alors que
ouais, mais enfin, si tu regardes les chiffres,
ils sont coup à coup de plus que la PSP.
Oui, mais ils sont coup à coup depuis des années.
Sur des gros volumes, parce que on peut être premier de la classe avec 11 sur 20 et être dernier de la classe.
Non, mais actuellement, il n'y a pas beaucoup de 3DS sur le marché japonais.
Pour une nouvelle console,
ils ont dépassé le million. Donc, le lancement de Zelda à ce moment-là, c'est sûr, il va pas être gigantesque. Tu vas pas en vendre un par
console. Surtout que Zelda au Japon, ça jamais.
Mais par contre, ça a boosté les ventes de la console dès la semaine suivante, etc. Donc, moi, je pense vraiment Zelda. Et pourtant, c'est beaucoup moins grand public que Mario, etc. Mais là, ils commencent l'offensive et ils vont la faire marcher, cette console. Pour moi, c'est clair.
À Noël prochain, donc, avec Mario.
Ah, bah Noël prochain, ça va cartonner, c'est obligé.
Mais à Noël prochain, en tout cas au Japon, devrait avoir
arrivé la
PlayStation Vita.
PlayStation Vita, ouais.
Mais ce qui est pas bon signe quand même, c'est que effectivement, depuis le début de l'année, ils font jeu égal avec la PSP, qui est quand même une console super
vieille.
Au Japon. Oui, au Japon, je parle, voilà. Et donc c'est quand même un petit peu inquiétant, quoi. En d'autres temps, ils auraiment.
Mais c'est pas si mal que ça, parce que la PSP elle cartonne au Japon.
Et rapidement, bah oui, oui, ouais, bah non, justement, j'ai l'impression qu'elle a un regain d'intérêt depuis quelques mois seulement. Hein.
Non, mais rappelez-vous quand même que la première version de la DS, même elle l'a pas, c'était pas non plus le carton phénoménal.
Oui, mais
à l'époque, c'était pas le même contexte en plus, parce qu'elle introduisait des choses très curieuses pour l'époque,
oui, exactement.
Inhabituelles, et donc c'était. Voilà, la 3DS, à part la 3D relief qui en plus est un inconvénient, on a déjà parlé en long, en large et en travers, c'est autant un défaut qu'une qualité.
Oui, mais qu'est-ce qui a vraiment boosté les ventes de la DS Lite? C'est son nouveau look tout blanc, tout mignon, pas autre chose.
Oui, peut-être.
Mais très donc, clairement,
il y avait masse de temps de la 3DS Lite.
Et derrière, une campagne de communication géniale par rapport à ça. Hein. À la Apple style, c'est tout blanc, c'est tout joli, ça se met dans le sac à main.
Et surtout, l'arrivée des premiers jeux,
oui, et Kawashima,
etc. C'est ça, en fait. C'est quand ils ont vraiment réussi à ouvrir la cible.
Mais qui sont finalement des jeux aujourd'hui qu'on retrouve gratuitement ou à 79 centimes dans les téléphones que depuis.
À l'époque, on ne l'attendait pas. Moi, je ne sais pas ce que Nintendo va nous sortir encore du chapeau. Pour créer des phénomènes, ils sont pas mal quand même. Et des trucs, vraiment, on s'y attend jamais.
Néanmoins, la sortie de la PS Vita à Noël, c'est vachement intéressant parce que, un, ils ont effectivement donc le prix agressif, on en a déjà parlé, 249€ aussi pour le modèle Wi-Fi uniquement. Et puis, s'ils arrivent à avoir Monster Hunter à la sortie au Japon, ils ont gagné.
Non, ils ont bien négocié, je trouve, leur stratégie par rapport à la PS Vita.
Est-ce que quelques mois après ce fameux épique podcast, les consoles portables vont-elles mourir en interrogation. Est-ce qu'on réitère un petit peu nos positions et
vite
on refait
fait.
Des grands paris? Moi, j'avais dit à cette époque-là que la 3DS, je la voyais difficilement, et c'était déjà énorme,
faire la moitié
les 70
moins.
Millions d'exemplaires. Je tu maintiens.
Elle les fera jamais.
En fin de vie.
Et en fin de vie.
Elle les fera jamais.
Et franchement, ouais.
T'as même dit mieux que ça. T'as dit qu'elle ne ferait pas 50. La moitié. Voilà. Bah qu'elle ferait pas la moitié. La moitié.
Ce qui est déjà colossal.
Et ben moi, maintenant, je dis plutôt 50.
D'accord. Moi, pour moi, ça va bien augmenter sur la fin de l'année, pour la 3DS.
Ah oui, clairement.
Mais de là,
bien augmenté. Il reste du chemin.
Ouais, il reste.
Moi,
du chemin.
Moi, je suis dans de côté de Julien.
Aussi,
je pense pas qu'elle...
Moi, je pense que la 3DS c'est une super console, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui comprennent pas comment ça fonctionne.
Attendez qu'elle soit moins chère.
Qui flippent un peu avec Street Pass, Pod Pass, 3D machin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu perdu, quoi. Et quelque part, c'est plus une machine gamer qu'une machine grand public.
Ah bah oui,
finalement.
Ah bah,
c'est
oui,
une machine gamer.
Elle, comme le dit Julio, elle va baisser de prix. pardon.
Julio.
Comme le dit Julio, la 3DS va aussi baisser de prix quand la PS Vita va arriver. Elle va peut-être être lookée. Moi, je crois que c'est pas du tout fini. Vraiment.
Ah mais ça l'est pas,
loin de
ça
là.
Ça l'est pas, mais ça va être des ventes très correctes, longues, mais ça va arriver à 50 millions. Il sera vraiment temps de passer à autre chose, une autre machine.
Et c'est déjà
un
énorme.
Modèle.
50
déjà.
Millions, mais je pense que Nintendo signe pour 50 millions.
Oh tain, bah, tu quand tu as fait 50 millions, je suis pas si sûr.
Bah, parce qu'ils peut-être qu'eux-mêmes savent très bien que fort de la concurrence d'Apple, ils feront moins quoi.
Fort de café.
Un nouveau Pokémon 3DS, mec.
Allez, on conclut cette zone-là avec la période fin avril, courant mai, et ce triste passage du piratage du PSN,
mais non,
pas
rien.
Que seulement. La folie du hacking avec Nintendo qui a été touché, Bethesda, Sega, Codemaster, Square Enix, et tant d'autres. Je crois
la CIA
Software,
et tout ça.
La CIA, enfin...
Nintendo, mais pour rigoler.
C'était quand même... on est quand même
l'avalanche.
Dans un moment assez bizarre.
Bah, lol sec, quoi. C'est un mot. Un
ils ont arrêté, ça y est.
Qui se sont amusés à montrer les failles de sécurité de tout le monde. Et moi, je trouve ça très bien.
Pareil.
Parce que ça montre bien que les données
attendez, on
de chacun...
Piratage,
là, absolument pas protégé.
Non.
De quoi? Tu me dis non.
Non, je disais non, à Trace.
Alors mettez-vous d'accord parce que je suis pas sûr qu'on soit très clair.
Dire très bien qu'on encourage ça, ça fait un peu peur quand même.
Oui, moi aussi.
Mais non, je suis pas d'accord, ça n'encourage pas le
ça met à jour effectivement des failles super graves, c'est pas normal.
Mais oui, mais voilà, mais ça encourage les sociétés
à se poser des questions. Là, je suis pulse pour dire, Sony, vous avez vraiment déconné. Mmh. Vous foutez presque la gueule du monde. Ah parce qu'en plus, ils ont viré des gens. Ils ont viré des gens au niveau de la sécurité. Ils ont plus pensé à leurs propres données plutôt qu'aux données des lecteurs. Bah, ça, je trouve que c'est du putain de foutage de gueule.
Mais c'est ce qu'on dit.
Mais tu l'aurais jamais su. Ils devraient rembourser tout le monde.
S'il n'y avait pas eu ça, tu ne l'aurais jamais su.
Oui, je suis d'accord. Mais on peut. Oui, non, mais je veux dire.
Et on sait
pas par ce moyen-là, je veux dire. Voilà, on peut pas cautionner ce moyen-là pour mettre à jour ça.
Non, mais c'est pas cautionner
le piratage. Est-ce que là, la roue est pas enclenchée et que ça va continuer et que
bah là eux, en tous les cas,
un peu n'importe quoi.
Le sait qu'ils ont arrêté.
Eux, ils arrêtent et visiblement parce que c'est un peu chaud pour eux. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir qu'ils l'ont dit plusieurs fois via leur Twitter et tout. Oui, mais c'est là que c'est intéressant. C'est que c'était pas forcément pour des actes frauduleux.
Ah oui,
c'était surtout pour montrer. Chez Nintendo, ils l'ont fait. Ils ont dit, regardez, ça c'est la clé du serveur, je sais pas quoi machin. Mais nous, on aime bien Nintendo. On leur veut pas de mal, on n'a rien fait dessus, on n'en vend pas de données, on veut juste vous montrer que là vous êtes pas au point. Ils l'ont fait chez Sega aussi. Moi je trouve ça très
c'était
bien.
Quand même à la tête du client hein, parce qu'il y a d'autres sociétés.
Oui, oui,
bien sûr. Rien à foutre, avec Sony, pourquoi voilà, parce que non, mais globalement, la quoi. Fin de Linux, le Géonaut, machin. Voilà. Donc, voilà.
Mais globalement, c'est pas non plus. Enfin. J'imagine que c'est pas ce que tu veux dire, mais il faut pas non plus croire que LulzSec est un groupe avec des idéaux.
Voilà, oui, exactement.
C'est pas du tout le cas.
Pas trop non plus exagéré.
LulzSec, oui, c'est un type de 33 ans qui dirige quelques autres personnes qui sont beaucoup moins matures que lui, et c'est tout quoi.
Oui, bien sûr.
Donc c'est pas genre Anonymous ou je sais pas quoi non plus.
Mais peu importe qu'il y ait pas d'idéaux, c'est que ça montre quelque chose.
Ça donne pas là des idées à plein de personnes et que.
C'est pas si simple que ça.
Ah bah c'est évident.
Mais si ça peut permettre aux gens déjà ne serait-ce que de crypter mon nom, mon prénom, mon adresse et ma date de naissance dans leur putain de base de données, bah, je serais déjà content. Parce que rien que ça, c'est quand même juste mais scandaleux. Bah oui, Trace le disait, c'est scandaleux.
C'est n'importe quoi, vraiment. C'est pas normal.
C'est un scandale.
Exactement.
En tout cas, espérons effectivement que ça aura mis d'équerre tout cela. Mais l'autre scandale, c'est qu'ils
ont pas besoin de crypter mon nom en fait.
Oui, c'est
ils, ils se cryptent tout seuls.
Allez, vous allez nous quitter pour nous retrouver
adieu
dans quelques instants. Salut. On va passer à la toute dernière partie du podcast et demander à la team la première équipe, l'équipe de Ligue 1, de nous rejoindre. HL de retour, ça va Alain?
Ah oh, super, je m'étais endormi un petit peu pendant
t'as eu la chance.
Ouais, c'était passionnant, j'ai écouté.
Il fait frais de l'autre côté. Alors ici, waouh.
Mais allez. C'était passionnant vos discussions.
Ah ben, passionnant, bien évidemment. Cyril aussi qui est
We're
de retour.
We're back to strike again.
Voilà. Et Caf de retour à micro.
Yeah. Bien sûr.
Il va falloir que tu te battes un petit peu plus cette fois pour l'avoir parce que c'est Cyril qui veut absolument garder le micro.
Regarde bien, je le mets là. Et exactement. Après, il ne touche plus jamais.
Alors, dans cette dernière partie du podcast,
j'ai craché dedans.
On va aller straight to the point. Messieurs, chacun votre tour. Et on va commencer par Caf parce que tout à l'heure, il avait été le dernier. Donc, bah, c'est comme d'hab, l'alpha.
Les derniers seront les premiers, c'est connu.
On va être poli et élégant. Quelles sont les tendances, les choses que tu as appréciées ou pas qui ont émergé pour toi dans cette saison, donc de juillet 2010 à aujourd'hui?
Alors rien. Le dématérialisé en général pour moi, en tout cas en tant que consommateur.
Et c'est positif ou
super positif? Parce que j'ai découvert des jeux dont vous avez parlé déjà, parce que j'ai écouté un petit peu.
Aïe.
Alors qu'il se fait taper par Cyril, je sais pas pourquoi.
Ce petit jeu-là,
je suis pas sûr Cyril que tu gagnes.
Mais tu vas te faire mal, bonhomme.
Prends ta tête dans sa main. Donc attention.
Mais et du coup, non pour
laisse
moi.
Tomber,
toi, t'as parlé de tout à l'heure.
Grosse bêtise.
Ah mais on vous entend plus, messieurs.
T'as parlé de Sword Series et genre de jeu. Et moi, effectivement, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais vu sortir en boîte. C'est super rafraîchissant. J'ai kiffé les Super Meat Boy. J'ai vraiment kiffé plein de petits jeux que j'ai pas cités dans mon top 3 mais qui sont des titres qui m'ont vraiment éclaté cette année et des trucs où à la limite j'étais frustré de pas aimer, genre Magica sur PC qui est extraordinaire.
Fumble a adoré.
Mais ouais, moi j'ai un problème tout bête, c'est que j'adore le concept, j'adore l'univers, mais le système de déplacement, je suis allergique en fait au cliquer pour bouger en restant appuyé sur le bouton de la souris, voilà, c'est
ah oui, oui.
Et moi ça me rend fou et je fais plein de conneries avec ça, donc comme c'est un jeu où tu peux te tuer tout seul. Non, tu peux pas configurer complètement les touches. D'ailleurs, au début, quand le jeu est sorti, il était tellement buggé, et ils avaient aussi oublié qu'on ne jouait pas toute la planète en QWERTY, par exemple, tu vois. Et donc, c'était un petit peu relou. Donc, heureusement, grâce au dématérialisé, tu peux avoir plein de patchs, surtout sur Steam. Mais pour moi, c'est vraiment le truc qui progresse.
Tu trouves que c'est l'année charnière?
Bah, c'est surtout que je trouve qu'on gagne en qualité. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment genre les trucs qu'on peut pas sortir en boîte parce que c'est trop mauvais ou trop de risques, etc. Maintenant, c'est un vrai choix. Donc les mecs se disent voilà, ce titre là on va le faire pour tel truc, et ça se voit d'un point de vue business, et sans rentrer dans des discussions un petit peu chiantes, quand on voit les prix de rachat des boîtes comme Zynga, comme PopCap, que Electronic Arts vient de racheter pour $1 milliard ce qui est quand même pas, voilà, c'est pas la petite PME, il se passe un truc. On est en plein dedans et c'est pas une catastrophe pour les hardcore gamers. C'est juste une évolution et c'est vraiment un truc où on va commencer à avoir des jeux. Je sais pas si les mecs ont essayé Tiny Wing, pour moi c'est un jeu mais ultra hardcore gamer.
Tiny Wing sur iPhone.
Bah oui, c'est que du scoring.
C'est du scoring, puis du scoring qui rend fou quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment là on est vraiment en train de découvrir que bah oui, on peut faire du dématérialisé sympa, hardcore gamer ou pas, et ça marche.
Et est-ce que tu penses que c'est le début de la fin pour les boîtes physiques,
non, je pense
consoles
pas.
Et qui seront amenées à l'image de OnLive, que je le pense jeu que lui-même va être dématérialisé.
Je pense que le jour où on arrive à faire du OnLive avec la même qualité que ce qu'on a sur nos desks en ce moment, oui, ça va être compliqué de justifier le fait d'aller acheter une boîte, et en plus d'un point de vue business, les mecs sont trop contents de te faire payer des trucs à la location comme ce qu'on a en télé, tu vois. Parce que pour eux, ça veut dire
mais moi, ça me convient,
verrouiller les mecs et tout. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'après, derrière, si les tarifs sont pas débiles, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je sais que Steam, par exemple, je rachète des jeux sur Steam quand ils sont en promo à 2-3 euros, parce que j'ai la boîte derrière moi et ça me fait chier d'aller chercher la boîte.
Ouais, mais c'est
la puissance de la flemme.
Et surtout, c'est un
truc très PC, en fait. Ça.
Non, c'est un sur truc console, très
PC,
c'est pareil.
Parce que sur PC, de toute façon, avec l'évolution des PC, même moi qui suis un grand collectionneur de machines et de jeux devant l'éternel, physique, les jeux PC, je ne les conserve pas, parce que c'est vrai qu'un PC, un jeu PC, peut-être en 6, 7, 8 ans, il est plus, tu peux plus le jouer sur les machines actuelles, donc ça sert à rien.
D'où l'avantage des trucs comme
Peut-être sur PC, ça se justifie plus, etc. Mais sur console,
je me permets pas être d'accord, on va pas faire le versus. Moi je trouve ça bien. Là en ce moment, je m'éclate avec Beyond Good and Evil. J'ai le jeu à la maison, mais j'avais pas envie de ressortir. Bon, puis c'est vrai que maintenant il est HD. Bon, cela dit, c'est pas la révolution non plus. Mais
il va avoir
j'avais envie de le rejouer parce que j'adore ce jeu et je m'éclate bien.
Et c'est pas cher
et tu le prends chez toi tout de suite. Franchement, je trouve ça bien. Il y a eu le Tomb Raider, Lara Croft. Il y a plein de jeux. Je trouve ça pas mal dématérialisé.
Moi, je l'aimerais bien l'avoir en boîte. J'aimerais bien le mettre dans ma collection.
Putain, t'as pas la boîte. L'essentiel, c'est quand même de jouer le jeu. C'est pas d'avoir la boîte.
J'ai envie d'y rejouer dans 10 ans à Beyond Good.
Mais t'as une grande maison, parce que moi les boîtes
toi,
elles sont à la cave
plus,
et après je les jette depuis le temps. Qu'est-ce que tu veux faire avec des milliers de boîtes?
Mais il est malade, tu viendras chez moi.
Et vous comprenez pourquoi Versus s'arrête et qu'on comprenait pourquoi
on ne recommence pas Versus.
Débranche son micro.
On devrait continuer alors, en fait, finalement.
Je suis d'accord avec Café.
Avec les trucs dématérialisés, tu peux y jouer aussi longtemps que tu veux, justement, puisque le truc est mis à jour.
Mais non, pas forcément. Et puis tu devras sur la prochaine génération de consoles le re-racheter.
Mais non, sur ton compte,
tu l'auras pour cette génération-là. Mais quand tu auras la prochaine, tu seras obligé de le re-racheter.
Mais non, justement.
Il n'y a plus de génération dans ce modèle-là.
Ce qui est sympa,
dans ce modèle-là, la machine, elle n'est pas chez toi, elle est à l'extérieur. Arrête, deux secondes.
Tu parles d'OnLive, mais moi, je parle pas de.
Mais oui, mais c'est ça la dématérialisation. Et c'est ça l'achat d'un jeu, d'un abonnement et la consommation du jeu par un service.
Ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des jeux PC maintenant que tu peux plus jouer normalement. Moi, ce qui me foutait les boules, c'est les jeux PC que j'avais, comme j'aime bien refaire des jeux d'il y a 5-6 ans, et ils marchent pas sur un nouveau PC.
Alors,
tu les prends sur Steam, et ben ils marchent. Moi, j'ai pris récemment Quake 2 parce que c'est un jeu que j'ai adoré, c'est classique, c'est tout ce qu'on veut, mais j'adore Quake 2. Comme ma femme regarde bloquer l'écran avec Roland Garros, je commence à en avoir jusque-là. J'ai repris Quake 2, et ben il marche, et donc je me suis éclaté à le faire. Il y a quand même des très bons côtés dans la dématérialisation.
Surtout avec les sites un peu alternatifs dont je parlais tout à l'heure, donc
Good Old Games.
Good Old Games, c'est un truc qui est génial parce que les mecs, en fait, comme ils récupèrent les droits, mais c'est très compliqué, plus personne n'a les sources de certains vieux titres, etc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te rebalancent avec un émulateur configuré pour les PC modernes, etc. Et ça marche du feu de Dieu. Donc on peut rejouer avec les vieux, je ne sais plus s'il y avait Kirandia, il y avait les vieux Interplay.
C'est surtout que sans eux, tu ne peux pas y jouer en fait.
Toute la collecte d'Interplay à 1,99€.
Et sans GOG.com, tu ne peux pas y jouer.
Non, voilà.
Aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui. Et c'est, en plus, souvent, ils en profitent au passage pour les adapter, par exemple sur Mac.
Bien sûr.
Ce qui n'était. Alors avant, c'était juste pas possible.
Ils bossent avec les ratios d'écran.
ils savent que les mecs sont en 16-9, etc. Donc ils essayent de trouver des ruses. Enfin bref, pour moi, les matérialisés, c'est vraiment un truc super et c'est hyper pratique et j'aime bien
tout. Et en tout cas, pour toi, c'est l'avenir.
Ah, pour moi, carrément.
Et on y va droit.
Ah, bah, on n'aura pas
alors,
le choix.
Attention,
c'est
sûr.
Cyril, pour conclure.
Pour conclure.
T'es long, ouais, Cyril.
Je suis d'accord avec pour certaines choses, le dématérialisé.
Alors, bidule, c'est CAF. Mais pour que les gens qui n'ont pas l'image.
Bidule,
non, mais tu l'as montré. Alors,
t'as dit bidule,
l'image,
t'as dit
bidule. Ne le pas.
Bon, je suis d'accord sur certains trucs avec Arnaud Chaudron. c'est bien, c'est vrai que pour certains trucs, le dématérialisé, c'est très bien. Pour les DLC, c'est très bien. Pour les patchs, on l'a dit tout à l'heure, c'est très bien, etc. Pour les jeux consoles, je maintiens que c'est pas bien. Et notamment, là, je viens de m'acheter une PSP Go.
Quelle idée ?
C'est,
bah, oui, ça, c'est
la console en elle-même n'est pas très bien.
Ça, c'est Cyril, il y a Cyril qui l'a acheté.
C'est le moment, parce qu'elle est plus en production.
Pas de qualité, mais si le service était de qualité, ce serait très bien.
Bah écoute, moi, je trouve vraiment que c'est une galère. Honnêtement... ça me fait plaisir et c'est un des événements de l'année aussi peut-être de la saison, c'est que si on arrête la production parce que justement elle n'a pas fonctionné, quelque part me rassure un peu.
Mais c'était un test.
Mais c'était très mal
le
fait.
Le test, il est pour.
Non, ça.
Pour Sony, le test a justement tourné court. Et la preuve, c'est que sur la Vita, bon gré mal gré, ils ont été obligés de rajouter quand même un format physique qui sera des espèces de cartes.
Des cartouches.
Et tu auras le choix. Moi, ce que je maintiens toujours, c'est qu'on ait le choix. Le dématérialisé, c'est très bien. Pour ceux qui, comme CAF, adorent ça et tout ça, c'est très bien. Pour le PC, c'est très bien. Mais qu'on laisse le choix pour nous d'avoir nos jeux en boîte et machin.
En tout cas, que ce soit sur la 3DS ou la Vita, pour l'instant, donc les deux consoles de cette génération, elles ont un format physique. Maintenant, à chacun de se faire son avis. Je crois qu'ici, on l'a.
Mais
bien
on sait
tous.
Pourquoi. Et là, je relance le débat. Était deg.
Je t'en prie. Sauve-nous.
Retrouvez-nous sur le forum.
Exactement. Voilà, avec grand plaisir. Bon, alors justement, Alain, toi, un élément qui t'a marqué pendant cette saison.
Bah moi, ce qui me marque, c'est en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une phase de bouleversement. Total du jeu
mais
vidéo.
Mais c'est pas une impression. Hein.
Oui, c'est plus sûr, qu'une. Enfin, jusqu'ici, on avait un feeling. Hein. Je l'ai pas découvert. On l'a pas découvert ces derniers jours, enfin cette saison. On le sentait venir. Mais je trouve qu'il y a une accélération. Vraiment. Le monde du jeu vidéo ne sera plus jamais le même. Je pense vraiment. C'est la plus grosse révolution qu'il y a eu depuis 30 ans. Bah, pour moi, c'est marquant, notamment essentiellement avec la montée en force du jeu sur les smartphones, sur l'iPad, tous ces trucs-là, c'est clair que c'est en train de prendre. En fait, cette année, ça a pris une place énorme. Et comme ça s'est vendu, il y a eu des ventes absolument énormes. Et en plus, toutes les études montrent que le jeu vidéo est globalement la principale activité sur ces plateformes.
Oui.
Et ça, je pense que ça va totalement
mais
changer.
Mais comment tu imagines justement les changements que ça va induire, ça?
Eh ben d'abord, je pense que ça va avoir des chances. C'est difficile à dire tout ce qu'il peut y avoir. Je pense que déjà le marché des consoles portables va vraiment dégringoler, ça sera fini. Enfin, je ne veux pas dire qu'elles ne vont pas marcher ou qu'elles vont.
Elles vont être obligées de se transformer
sur la génération précédente.
Il n'y aura plus des succès comme Nintendo en a fait avec sa Game Boy, avec la DS. Ça ne me paraît plus imaginable. Et je pense qu'à terme elles vont vraiment disparaître.
Est-ce que tu penses que c'est un bouleversement encore plus important finalement que les motion controllers?
Ah, beaucoup plus.
Qui finalement on a presque l'impression également... sont en train de disparaître du côté de Nintendo, parce que cette manette elle fait vachement moins motion controller que la Wiimote.
Absolument. Mais oui et non, c'est-à-dire que de toute façon là aussi c'est la deuxième phase du bouleversement qui accompagne l'autre, la précédente dont je viens de parler, c'est le fait de ces nouveaux. Il y a une confirmation. Pour moi, au départ, et pour un certain nombre de gens, quand il y a eu la Wiimote, on s'est dit, ok, c'est un gadget, c'est un truc, bon, c'est leur console, donc pendant 5 ans, ça va marcher. Or, je ne pensais pas vraiment
que
si
les autres
ça avait été un gadget, j'aurais pensé au départ que quand le PS Move arrivait et Kinect arrivait, bah je pensais pas que ça allait marcher, je pensais que ça allait marchoter, je pensais que
mais
tous
je crois
les
qu'on
gens
a tous été surpris
qui
par le succès
voulu
de Kinect,
jouer hein. avec ces trucs-là, ils l'avaient eu avec la Wii, ils allaient pas le prendre ailleurs. Or on a vu que ça a pris des proportions quand même, ça a vendu beaucoup plus que beaucoup de gens pensaient. Alors maintenant il y a la nouvelle génération qui arrive avec quelque chose qui est plus entre la manette, mais qui est quand même pas tout simplement une manette sur la Wii U. Hein. C'est quand même quelque chose de bâtard entre
mais
les
non,
deux.
De toute façon, c'est...
Comme on sait que les autres imitent toujours Nintendo au niveau des contrôleurs, depuis toujours. On peut être certain que les prochaines générations de PS, de PlayStation et de Xbox reprendront des trucs de ce genre-là. Mm.
D'autant qu'on peut se dire que finalement, il y a de plus en plus de rumeurs insistantes sur une télévision Apple qui serait lancée, et que finalement, avec l'iPad, on se retrouve dans le système de la Wii U, avec à la fois quelque chose dans la main avec un écran, et en même temps une télévision dans laquelle il y aura du jeu vidéo, puisqu'il y aura tous les jeux qu'on retrouve sur les iPads, sur les iPhones, plus peut-être d'autres. Avec des
et dire qu'ils ont tout pompé sur la Dreamcast.
Enfin bref, tous ces éléments font qu'indiscutablement, on assiste à une révolution totale du jeu vidéo, alors que finalement, ça n'avait pas tellement bougé en 30 ans. En 30 ans de jeux vidéo, ce qui avait évolué, c'est la technique. Mm. Mais sur le fond, on ne peut pas dire que ça avait vraiment évolué.
Maintenant, il y a eu quand même le jeu multijoueur qui est arrivé et qui s'est démocratisé largement grâce à Internet.
Il y a aussi, mais en dehors de ça, c'est vrai que un public plus large. Mm. Mais là, il y a vraiment une révolution.
Il y a une lame de fond économique sur la façon dont on consomme le jeu, le prix auquel on est prêt à le consommer, les expériences auxquelles on veut se confronter, etc.
Le type de jeu fait aussi, parce que finalement, ce que je trouve assez aussi surprenant, c'est quelque part, il y a un côté, bon, il y a le rétro gaming qui marche bien, mais d'une certaine façon, ces petits jeux qu'on fait sur smartphone, quelque part, il y a une certaine forme de retour aux jeux de l'origine. Quelque part.
Bah, Tiny Wings, par exemple.
Dans l'esprit des petits puzzle games et tout ça, effectivement, mais c'est aussi parce qu'ils n'en font plus, ils font plus que des FPS sur les grosses machines. Mais dans l'esprit même du gameplay, non, parce que le gameplay, c'est pas du tout le même gameplay.
Moi, je trouve.
Tu peux pas, même si j'adore jouer sur.
À part le fait d'aller sur tactile.
Bah oui, mais c'est une différence essentielle quand même.
C'est une différence mécanique.
Cette différence mécanique a fait.
T'as joué à Tiny Wings ou pas?
Fait le fond du jeu vidéo depuis quand même.
Ah non, je suis pas d'accord. C'est l'input que tu mets, mais finalement le gameplay en lui-même, c'est
Cyril, est-ce que t'as joué à Tiny Wings ou pas?
Je suis pas d'accord.
Avec beaucoup d'entre vous depuis longtemps, c'est que le gameplay du jeu, d'un jeu vidéo, dépend directement du mode de commande.
Est-ce que t'as joué à Tiny Wings ou pas?
Alors moi, je joue énormément à Angry Birds, mais même si j'adore Angry Birds, il y a quand même ce feeling de l'écran tactile qui me plaît pas énormément, et au bout d'un moment d'ailleurs j'arrête
sur Angry Birds. On aurait pu jouer à la manette,
sur le Game & Watch,
sur le Game & Watch où t'avais pas de croix, sur les premiers en tout cas il y avait juste
sur le Game & Watch j'avais une croix de direction dès le premier.
Il y en avait certains où t'avais juste à appuyer pour avoir une direction,
t'avais 4 petits boutons, mais c'est très rare.
Franchement, que ce soit tactile ou pas, ça change pas grand chose.
C'est justement ce qui était justement vachement bien sur les Game & Watch, c'était justement cette croix de direction qui était géniale, cette précision ultime et ces modes de commande.
Est-ce que
tu as
rejoué au jeu Game & Watch sur iPhone par exemple?
Non, pas
quand
sur
ils
iPhone.
Ont été ressortis de manière iPhone. Non officielle. Non. Tu retrouves le même plaisir immédiat et instantané.
Je suis pas d'accord.
Et puis Tiny Wings, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Oui, c'est du tactile, mais tu le prends avec un bouton sur une manette traditionnelle. C'est exactement le même jeu. Il n'y a pas besoin d'en changer parce qu'il n'y a qu'une seule action à faire. Et ça n'empêche pas que c'est un jeu qui est finalement assez hardcore. Donc c'est vraiment le même gameplay. C'est hardcore parce que c'est du scoring, et que ça soit sur un écran tactile ou avec une manette, ça change absolument rien.
Bah si, parce que le contact, rien que le contact, il est pas agréable, le contact sur une sur un écran.
Il te plaît pas, ouais.
Mais néanmoins,
sur un point que tu soulignais, effectivement, c'est vrai que ce soit sur PC ou sur console, il y a une telle abondance de titres très calibré, des FPS à ne plus savoir qu'en faire, c'était un peu quand même l'une des thématiques de cette E3, mais aussi de l'E3 de l'année dernière, mais aussi de l'E3 de l'année avant, etc. Que finalement, il y a beaucoup de jeux beaucoup plus rafraîchissants et finalement un petit peu innovants, même si c'est des gameplays très simples, même si voilà, qui fait que ça fait plaisir aussi à des nouveaux entrants dans le jeu vidéo. Finalement, la grosse évolution, c'est de voir à quel point il y a des gens qui ne jouaient pas ou qui ne jouaient plus aux jeux vidéo qui sont en train de s'y mettre ou d'y revenir.
Et là, j'ai envie de dire le prix.
Oui,
parce que
la barrière est en train d'exploser.
La barrière, elle explose parce que quand tu vois des jeux, même le Dead Space d'Electronic Arts qui est resté donc en promo, j'en parlais avec Alain tout à l'heure derrière, à 99 centimes.
Mais pour moi, il valait pas forcément beaucoup plus non plus.
Mais ouais, mais 1€, mais le mec, il est content, il s'en fout. C'est une démo technique sur son iPad et quelque part, tu te dis putain, mais je retrouve 2-3 séquences rigolotes. Pour 1€, le mec, il n'y a pas d'effet déceptif quelque part. Même il se dit, ah, je vais faire 3 parties.
Mais il y en aura un. Et c'est là où c'est plus intéressant, c'est que même dans une petite gamme de prix qui va de 0,79 centimes à 4€. à force d'habitude, les gens vont aussi quand même juste rééchelonner finalement leur échelle et se dire bah ça pour 1 euro je trouve que c'est de l'arnaque, ça pour 0,79 centimes je trouve que c'est super bien, ouais. Etc, etc.
Ouais, après, mais par contre pour acheter un jeu à 70 euros au bout d'un moment il va falloir vraiment qu'il soit vraiment qu'il défonce bien, quoi.
Et est-ce que vous pensez aussi clair. Parce que c'est un petit peu le souci et on l'a vu avec le président de Take-Two qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de GTA, pas d'Elé Noir, enfin il n'y aurait plus de GTA parce qu'il y en a déjà eu avec Jonathan Ward, parce que justement pour eux c'est des jeux qui leur coûtent des millions de dollars à produire et qu'ils veulent faire des millions de dollars et que c'est pas en vendant des jeux à 79 centimes qu'on fait des millions de dollars, sauf des cas exceptionnels.
Ouais, et ça fait d'ailleurs qu'il faut vendre des milliards de jeux, quoi.
Voilà, et que du coup lui il dit on reviendra le jour où on pourra faire des jeux entre 20 et 40 dollars. Est-ce ça, que vous pensez
que ça arrivera? Non, je pense que là il se plante. Je pense que
c'est
l'inverse qui va se passer et il y aura jamais ce mode là parce que instinctivement, et là pour le coup Cyril a raison, si t'as pas la boîte dans la main et que t'es devant un écran, aussi beau soit le site, aussi beau soit le machin, au moment où on te demande 40 ou 50 euros sur un truc que tu sais pas vraiment ce que ça va être, les mecs ont pas tellement envie. Là ça marche sur Steam par exemple, sur les jeux PC, parce que t'as le buzz, tu profites du buzz global du truc, des tests, etc.
T'as des démos, t'as des choses comme ça.
Voilà, il y a des démos, tu peux accéder au jeu. Là pour l'instant ça manque de mode démo pour tous les produits par exemple, ça manque
d'autant plus pour GTA où c'est en plus ils ont pas de bol parce que c'est un type de jeu où justement une démo c'est très très chiant à faire.
Non, sur un jeu bac à sable ça, ouais, c'est très compliqué. Ça rend rien, quoi. Donc pour moi l'avenir il est là, mais ça y est, le prix, il y aura des trucs à pas cher, mais il faut pas qu'ils rêvent non plus.
Cyril, c'est à ton tour d'évoquer la tendance, le fait qui t'a marqué dans cette saison.
Bah je vais rebondir un peu sur tout ce qui a sur tout ce qui
alors moi c'est bien matérialisé.
Ouais. Non, parce qu'en fait Alain a entièrement raison, il y a eu, cette année est vraiment charnière, il y a une révolution qui est en train de se passer. Et moi ce que j'observe, un peu contrairement à vous, ce que j'observe c'est que le marché est en train de se fracturer en fait. Il y a d'un côté, on va avoir des machines qui vont devenir très... Pour les passionnés de jeux vidéo, ça va être la PS Vita.
Putain, Cyril, je suis extraordinairement d'accord avec toi, c'est ouf.
Ça va être la PS Vita, ça va être les consoles, ça va être les consoles classiques, la PS3, peut-être la future PS4, la Xbox 720, etc. Et il y a un nouveau marché du jeu vidéo qui est en train de se créer aux autres et qui a été ouvert par la Wii en fait. C'est la Wii qui l'a révélé.
J'irai même plus loin que toi. Pour moi, c'est
et
pas
la DS. Et la Wii et la DS.
Pour moi, c'est même pas deux grandes familles. C'est carrément vraiment une fragmentation qui s'accélère en plein de sous-catégories encore plus différentes.
Et les vrais
smartphones, hein, quand même. Ça.
Les passionnés de jeux vidéo, les purs passionnés de jeux vidéo continueront de jouer parce que il faut voir. Moi, le plus gros effet waouh que j'ai eu cette année, c'est quand même la PS Vita. Vous l'avez vu
Halo
aussi
3,
à l'E3 quand tu tombes sur l'écran et que tu tombes sur Uncharted, à la limite il y a plus le waouh effect qu'il y a eu avec l'effet relief sur la 3DS.
Moi je suis d'accord.
Alors que ça aurait pu être on aurait pu penser
pour moi c'est pas le même effet, mais bon.
C'est plus excitant, je trouve, parce que la 3D on s'en fout, enfin c'est très
subjectif.
Subjectif, et je maintiens qu'on pourra faire des jeux sur cette PS Vita qu'on ne pourra pas faire sur un iPhone.
Ah mais c'est certain.
Et voilà. Donc je pense que le marché est en train complètement de se fractionner et il y a des gens comme nous qui vont continuer et ça va devenir en fait le marché du jeu vidéo tel qu'on le connaissait va devenir un marché de niche.
Donc il est déjà dans une certaine mesure.
Voilà,
en fait,
hein. Et c'est en train un peu de commencer. Il va revenir à ce qu'il était au début.
Oui,
attention
parce que le marché de niche, donc pour les gamers, voire les hardcore gamers, sont les gens qui demandent les expériences de jeu les plus abouties, les technologies
les plus chères,
celles qui ont le plus de difficultés.
Et ben c'est à eux qu'on pourra continuer de vendre des jeux à 70,
Il faut qu'ils soient plus nombreux que ce qu'ils vont être.
Il faut surtout qu'ils soient moins sectaires, je pense, et moins obtus.
Écoute, Nintendo et Sega, à une époque, ont vécu sur ce...
Nintendo et Sega qui font les jeux les plus hardcore et qui coûtent le plus cher.
À une époque, au début du jeu vidéo, il y avait ce marché de niche suffisait aux éditeurs et à vivre. Donc je pense qu'il y aura un marché...
Mais c'était pas les mêmes coûts, Cyril.
On est d'accord. C'est vrai que les coûts ont explosé.
Mais avec plusieurs zéros, ils ont pas... C'est pas 10 fois, 100 fois, c'est beaucoup plus que ça.
Tu as raison. Mais je pense quand même qu'il y a un marché un petit marché.
Il y a bien sûr, il y aura toujours
et
un marché.
Il y a un gros marché.
Cela dit, tu peux dire un truc. Il y aura quand même un petit problème sur ce marché de niche, quand même. Et là, c'est une réalité. Ça sera donc un marché pour les gamers. Et le problème, c'est que les gamers, c'est là où on trouve le plus grand piratage possible. Et là, et ça pose quand même un petit problème économique, car les casuals, ils piratent quand même beaucoup moins.
Ou de conscience pour les gamers. Parce qu'il y a un moment, l'achat est un vote.
Et là, il y aura un choix à faire.
Pour un style de jeu vidéo.
C'est possible, oui. Ouais.
Mais il y a autre chose aussi qui est très important dans ce que tu dis.
Sur ce qu'il vient de dire.
Et après, on conclut.
Et Caféine l'a vécu avec moi fortement. Ça rappelle ce que vient de dire Alain. L'Amiga qui a quand même été tué, qui était une machine fabuleuse et qui a été tué par le piratage quand même.
Tout était piraté.
Juste un truc à votre discussion, c'est qu'en fait, la différence hardcore gamer et casual, elle existe parfois au sein de la même communauté. Je reprends un
exactement. C'est des frontières à la con.
Voilà, parce que le League of Legends, par exemple, pour reprendre un jeu où Raon attend mon papier depuis un an sur mon mea culpa du test que j'ai bien sur 5, qui est finalement un excellent jeu, il y a un truc qu'il faut bien voir, c'est que c'est un jeu qui rapporte des millions, qui est un jeu gratuit, qui est un free to play, et au sein duquel on va retrouver des gens qui jouent une fois par semaine de temps en temps avec des trucs gratos.
C'est pareil avec WoW.
C'est pareil avec WoW. Et WoW, c'est exactement un super exemple pareil. Et où le titre est joué à côté de ça en compétition. Et en compétition, le week-end dernier, à la DreamHack, il y avait 200 000 mecs connectés au stream live pour voir la finale.
Oui, oui, oui.
200 000 personnes pour du e-sport. Enfin, au secours, quoi. Donc, non, ça va. Oui. Et c'est pas des casuals, là. Enfin,
et à la fin, Call of Duty, qui est un jeu qui est quand même le plus gros succès. Ouais. Donc ça,
on peut pas vraiment dire qu'il soit casual.
Indiscutablement,
les deux.
Il n'y a pas que les gamers. Ouais, ça, ils
et les pros, ils jouent en. Les gros hardcore, ils jouent en multi comme des porcs pendant un an après, quoi.
Et j'ai juste un truc encore.
T'as failli conclure.
Pour rassurer Cyril, qui a peur de cette histoire de marché de niche, je pense que même si un jeu.
Moi ça me
relance pas. Ne relance pas.
Au contraire, ça serait la sauvegarde. Ça serait la sauvegarde du jeu vidéo que moi j'aime. Donc si le marché de niche résiste, très bien.
Mais pour qu'il résiste, parce que c'est Alain en fait qui disait que ça, c'est quand même les jeux. Et toi aussi qui disais que c'était les jeux les plus chers à produire, etc. Donc on en rêve peut-être moins en fait. Voilà. Il faut quand même produire ces jeux-là pour installer des marques. Parce que les gamers vont quand même rester, à mon avis, pas une sorte d'élite, mais je veux dire prescripteur, etc. Et c'est parce que des gens vont acheter un Assassin's Creed à plusieurs millions de dollars.
C'est pas parce que les gamers ont acheté Angry Birds qu'il en a vendu 110 millions.
Mais attends, j'ai pas fini. Pourquoi tu me parles d'Angry Birds?
Tu me dis installer des marques, etc. Les gens, ils s'en branlent de savoir que ta marque, elle est.
Oui, mais si Assassin's Creed est très joué par les gamers, ça leur permet aussi derrière d'installer éventuellement la licence Assassin's Creed plus facilement sur des plateformes casual où justement ce sont d'autres marques qui règnent.
Oui, mais. Mais cet exemple précis où justement Ubisoft a fait beaucoup de transmédia, etc., n'est pas un succès tonitruant au niveau des casual. Moi, je trouve que les casuals, ils trouvent leur marque qui leur plaise très facilement. Kawashima, ils n'ont pas attendu que les gamers trouvent que c'était.
Mais c'est pas les casuals.
Pour y aller, quoi.
C'est pas uniquement les casuals, c'est juste toutes les autres formes de jeux qui échappent à cette niche dont on parle depuis tout à l'heure.
Et attention, sur les smartphones et tout ça, sur ce qu'on disait tout à l'heure, Angry Birds et le jeu que tu citais,
Tiny Wings,
qu'il faut absolument que j'essaye d'ailleurs, c'est un peu les arbres qui cachent la forêt aussi. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui s'y sont essayés
et qui se sont cassés les dents.
Parce que justement, à 79 centimes, tu es condamné au succès.
Ah bah, on est d'accord.
Parce que
ce sont quand même des jeux qui, même s'ils coûtent rien par rapport à un Uncharted ou un machin, coûtent une trentaine,
faut les développer
euros,
quand même.
Quand même à faire. Allez, on va rappeler tout le monde pour conclure ce dernier podcast. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on va même aussi appeler Étienne et Christian, nos deux stagiaires pendant cette saison. Christian,
what the fuck, j'adore ton t-shirt.
AKA Tinou, viens parmi nous. Voilà.
Viens sur mes genoux, Tinou.
Jackson,
tu aimes les films de gladiateurs.
Ah bah viens de l'autre côté. Voilà. On va vous passer quelques instants le micro.
Je suis dans le métro, ça y est.
Déjà, les gars, pour vous remercier de tout ce que vous avez pu faire au sein de Gameblog, parce que mine de rien, ils se sont occupés de manière chevaleresque presque des fiches-jeux, et aussi ils ont beaucoup œuvré dans l'ombre pendant l'E3 par exemple pour vous permettre de le vivre intensément. Si
on
vous
l'a
deviez
fait avec plaisir d'ailleurs.
Eh ben, écoute, il fut partagé. Si on devait citer ton jeu de l'année, ton jeu de la saison, en tout cas.
Mon jeu de la saison, j'adore la saga Assassin's Creed, donc Brotherhood,
sans aucune hésitation. Assassin's Creed Brotherhood, visiblement qui est un véritable plébiscite. Il faudrait qu'un micro arrive juste à Jackson Théo. Voilà. Même question pour toi, Jackson, toi qui vas partir au Japon. Donc la dernière fois qu'on te voit non irradié.
Je vais m'irradier bientôt.
Et ça nous fait plaisir de te voir en bonne forme pour l'instant. Voilà. Toi, le jeu, toi qui aimes bien, c'est toi qui m'as fait découvrir Super Brothers Sword and Sorcery. Et je te remercie infiniment parce que tu vois, il est numéro 3 de mon classement. Quel est le titre que tu auras retenu
cette année?
Ouais.
Sur cette saison. Je suis assez décalé dans ma tête, donc c'est vrai que le dernier jeu que j'ai vraiment surkiffé, c'est Bayonetta. Mmh. Alors je sais pas si c'est vraiment.
Non, c'est pas dans la saison.
Mais j'y jouais très tard en fait. Ouais. Du coup, je sais que les sorties en avance, il sortit un peu en avance.
Mais t'es obligé d'en trouver un autre parce qu'il est pas dans notre saison.
Je vais sans doute dire un autre jeu qui est peut-être pas dans la saison.
Super Mario World, tu peux en prendre un autre.
Le jeu que tu m'as fait acheter sur iPhone là, Tofu Mes Couilles.
Tofu Mes Couilles, bah, ça c'est Super Meat Boy, donc c'est un peu le
Super Meat Boy.
Non, mais c'est pas Super Meat Boy. Non.
Alors attendez. Non, il arrive, je le sens, c'est maintenant.
Alors je vais pas vous dire Red Dead quand même, parce que c'est pareil, ça.
C'est hors saison encore.
Voilà, c'est hors saison. Alors, le tout dernier jeu, vraiment que. Catherine. On va dire que. Voilà.
Catherine.
Non, mais vraiment, c'est ça. C'est vraiment où j'ai eu une sensation de découverte.
Il y a Trask dit sexuel.
Justement, c'est intéressant parce que c'est malgré tout la promotion, c'est pas un jeu de cul et loin de là. Quoi.
Loin de là, en fait, c'est vraiment effectivement Atlus. On aurait pu penser, enfin, non, quand on connaît Atlus, on sait que ça n'a jamais pu être vraiment un pur jeu de cul. C'est juste impossible. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment ces côtés très dark, très glauque, avec des clins d'œil à d'autres sagas de leur série. Et donc. Tous les fans d'Atlus, tous les gens qui aiment bien le japonais un peu délire, forcément ils kifferont Catherine qui va bientôt sortir aux États-Unis cet été. Et donc bientôt aussi en fin d'année en France. Donc vraiment.
Et puis on peut retrouver ton test sur Gameblog puisque c'était mon premier test
que j'ai fait avec enthousiasme.
Voilà. Exactement.
en framponnet.
Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. On va conclure ce podcast avec une ou deux petites tendances. Un micro pour Julo, puisque dans cette saison, on a beaucoup parlé de Shenmue, mais cette fois-ci pour des vraies raisons.
Ah, ouais.
Parce qu'effectivement, il c'était est revenu c'était une tendance. Part un petit peu indirectement sur le devant de la scène.
Tout à
en
fait.
En deux, trois mots.
Voilà, donc on a vraiment fait des vraies news sur Shenmue. Il y a un faux jeu qui est sorti. Mais voilà, on n'a jamais autant parlé de Shenmue et finalement, ça a fait beaucoup de causeries. Voilà, de buzz. Et puis, donc du coup, bah écoute, voilà, on espère peut-être pour la prochaine saison. Une annonce fracassante.
Ouais. Allez, pour conclure ce podcast, on aurait pu bien évidemment parler du déclin du jeu vidéo japonais, mais on en a déjà parlé tant de fois dans les podcasts qu'on va vous éviter tout ça. Notre avis, globalement, n'a pas véritablement changé sur la question. Encore moins à la lumière de ce qui s'est passé à l'E3, même si on espère et on attend un Tokyo Game Show resplendissant. Peut-être que les développeurs japonais se sont réservés pour leur propre salon. C'est ce qu'on verra d'ici quelques temps. L'évolution du jeu vidéo, on l'a abondamment abordé avec Cyril, Caf, Alain et tout le monde autour de la table translucide,
exact.
La plus incroyable de l'internet moderne. Nous, en tout cas, on va collégialement vous remercier d'avoir été fidèles à tous ces podcasts. Une saison de plus, on est déjà au 191e podcast. On se donne rendez-vous donc à la rentrée, en septembre, après quelques petites vacances des podcasts. Néanmoins, gameblog.fr continue avec toujours au quotidien des news, des tests, des dossiers, tout ça, ça ne s'arrête pas.
La Gamescom en août.
En août, à peu près au 15 août, pour la Gamescom avec Julien Hubert et Grigri
Schlemkes.
C'est vrai que c'est bien.
En allemand, on dit. Voilà, pour couvrir la Gamescom. Le plus gros salon européen du jeu vidéo et en audience, le plus gros salon même du monde, hein, plus de 250 000 personnes à l'année.
Un très beau salon.
Donc voilà, on espère y découvrir pas mal de choses. Devrait y être annoncé par exemple les prix des jeux PS Vita, son autonomie qui ne sera pas d'1h23 et plein d'autres choses comme ça.
Ou,
voilà.
Peut-être, hein, on sait pas.
Rendez-vous à la rentrée pour la reprise, la saison 5 des podcasts. Merci à tous ici et merci à vous avec vos oreilles ou vos yeux si vous êtes premium.
Ou les deux.
En viseur zen à tous.
Exact.
Et à bientôt.
Ciao.
Bonnes vacances à tous.
Éclatez-vous bien.
Jouez bien, portez-vous bien.
Et arrêtez de faire tiède.
Bye bye.